There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toutes les deux semaines l'actualité du jeu vidéo, gaming sur PC, console, mobile, l'industrie, les news, toutes les infos, tout ce que vous avez besoin de savoir et de comprendre sur le jeu vidéo, c'est dans le Rendez-vous Jeu. Est-ce qu'il faudrait l'appeler le Rendez-vous Jeu vidéo ? C'est un petit peu moins snappy, un petit peu moins cool, donc on garde le Rendez-vous Jeu. Je suis Patrick Béja. Et aujourd'hui, on va vous parler de Anthem, la démo qui a été disponible ce week-end. On va vous parler aussi un petit peu de Mortal Kombat, Days Gone, tout ça. On va vous parler de Kingdom Hearts, mais en fait, pas Kingdom Hearts 3. Et j'ai une astuce sur le titre de l'épisode, mon gars, mais vous allez halluciner. Et on va vous parler aussi une question, est-ce que les nouvelles consoles vont être annoncées cette année, voire disponibles cette année ? On va répondre à cette question avec 100% de justesse. Et puis quelques autres petites news également. Et pour m'accompagner dans toute cette aventure podcastique, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux personnes. Alors, d'abord la première... Une personne qui est tellement fan de jeux vidéo que même quand il veut perdre du poids, il met un casque de réalité virtuelle. C'est une personne dont le nom impose tout de suite son statut de leadership de la meute des fans de jeux vidéo. Ouais. J'ai nommé Alpha. Bah, hey, Alpha, tu es l'alpha du jeu vidéo. Comment ça va, Sébastien?
Bonjour, ça va très très bien, et toi Patrick ?
Bah écoute, je suis en forme, on a tous les deux joué à la démo de Anthem, qu'on attendait pas mal, parce qu'il se trouve que tu ne joues pas que à Overwatch dans ta vie. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, tu es un gros streamer, caster d'Overwatch, mais tu fais aussi d'autres choses, comme par exemple devenir un pirate, jouer à Beat Saber, jouer à Vermintide, etc.
Ouais, j'aime bien... explorer d'autres possibilités.
Et là, tu as jeté ton dévolu sur la démo d'Anthem, dont on pourra vous parler. Et on parlera peut-être très rapidement, mais pas trop, des problèmes qu'il y a eu avec cette démo également.
Ouais.
Ça a été... T'as réussi à jouer sur console ou t'étais que sur PC ?
J'étais que sur PC.
D'accord. Moi, je me suis reporté de la console au PC parce que c'était juste impossible sur console. Donc...
Ah d'accord. Ah ouais.
Et on a également, qui attend très patiemment dans son coin de ce podcast, Kevin Sicurel, qui sait pas, ça va, j'ai bien prononcé, alias Moguri. Kevin, alors, invité improbable, j'écoutais pour la première fois de ma vie le Cozy Corner, qui est un podcast qu'on m'a recommandé plusieurs fois, mais je sais pas pourquoi, hier, je me suis dit, allez, je vais le télécharger, je vais écouter. Ah oui, parce que tu parlais de Kingdom Hearts. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais l'écouter. Et là, je me suis dit, mais ces deux gars, ils sont trop cool, quoi. c'était vraiment, c'est une ambiance très particulière que vous réussissez à créer dans cette émission avec Mehdi. Et du coup, je me suis dit, mais on doit parler de Kingdom Hearts demain. Sébastien, jamais touché un Kingdom Hearts quasiment. Moi, jamais touché un Kingdom Hearts de ma vie. Il faut quelqu'un qui puisse nous en parler un petit peu. Et là, je dis, bon, Kevin, allô, mission impossible. Est-ce que tu es disponible dans moins de 12 heures pour participer à l'émission ? Et là, il me dit, banco, je suis là. Merci, Kevin.
Et oui, bah, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir de venir ici.
Donc, dans l'épisode du Cozy Corner en question, vous mettez... Alors, l'épisode fait déjà 3 heures, ce qui n'est pas si inhabituel. Mais il y a quoi ? 1h30 sur l'histoire de Kingdom Hearts ?
C'est ça. C'est que je m'étais mis pour défi d'arriver à résumer... Enfin, à raconter toute l'histoire de Kingdom Hearts, de la série entière, à mon comparse Mehdi. Et j'ai lamentablement échoué. Je pensais pouvoir faire ça en... une demi-heure, 40 minutes, et ça en a pris plus du double, presque le triple. Et c'était à prévoir, mais ça donne une bonne idée, je pense, de la confusion totale dans laquelle cette série peut plonger quand on s'intéresse vraiment à son histoire.
Et justement, on va s'intéresser à l'histoire de la série, bon, peut-être pas pendant une heure et demie, mais oui. À l'histoire, et puis à l'effervescence qu'il y a autour de cette série, parce qu'elle agite énormément de super fans, et quand on y est un petit peu extérieur, c'est compliqué à comprendre, je crois, donc c'est un petit peu ça qu'on va explorer, plus que Kingdom Hearts 3 lui-même, qui est sorti il y a deux jours, que quasiment personne n'a eu le temps de tester correctement. Les tests sont même pas vraiment encore sortis, donc voilà, on va parler un petit peu de ça. Ouais. Comme je vous dis, le titre, ça va être... Mais je pense qu'il y en a qui regardent le titre et qui disent « Ah ouais, mais enfin, normal, sympa, machin. » Mais en fait, c'est trop, trop malin. Je vous expliquerai tout à l'heure. Je suis hyper fan.
D'accord.
Mais commençons par cette VIP démo d'Anthem qui a été disponible tout le week-end. Et alors, et tout le monde se souvient de ce qu'est Anthem. Anthem, gros jeu, game as a service, entre Diablo et Destiny. C'est un petit peu la version de Destiny de BioWare. Énorme projet qui a été lancé, si je ne me trompe pas, en 2012, publié par EA. Et donc, il arrive enfin au mois de février, le 22, mais la VIP démo était disponible à ceux qui avaient précommandé et pré-acheté le jeu. Et donc, c'était un accès anticipé, on va dire, qui était disponible à partir de vendredi soir et jusqu'à dimanche tard dans la soirée. C'est une démo qui est relativement courte en contenu. Il y a 3 missions et un donjon. Et elle a été extrêmement populaire. Il y a eu, comme toujours dans ce genre de contexte, des gros problèmes d'accès et des gros problèmes de fonctionnement sur la démo avec des bugs à répétition pour à peu près tout le monde, j'ai l'impression. Je crois que Sébastien, toi aussi, tu as eu le problème du load infini, du chargement infini.
Le load infini, en fait, ça arrivait régulièrement quand tu passais d'une zone à une autre. Mais bon, je crois que celui qui m'a rendu le plus fou, c'était le bug de connexion au tout début, où simplement t'avais des erreurs en boucle et personne n'arrivait à se connecter, en fait. Donc, c'était pas une démo exemple de bug, mais apparemment le build datait de 6 semaines, en fait. Donc, c'est pas vraiment le truc le plus opti, a priori.
Ça évoque la sortie de Diablo 3 un petit peu. Il y a peut-être un côté nostalgique là-dedans.
C'est ça. Ah, vous vous souvenez quand on arrivait à se connecter à rien. C'est marrant parce que il y a deux choses, moi, qui me sautent aux yeux dans cette histoire. C'est que d'une part, on n'est plus en 2012. Parce que 2012, souvenez-vous que c'était quand même une époque où quand Blizzard a annoncé que Diablo 3 serait toujours en ligne, ça a été un petit peu un tollé. Bon, au final, la plupart des gens s'en sont accommodés et très bien accommodés. Mais c'était une époque où le tout le temps en ligne et le nombre de connexions massifs était moins commun. Et donc aujourd'hui, on se dit, 7 ans plus tard, il faudrait que ça soit un petit peu mieux géré. Ça reste frustrant tout le temps. Et puis, un autre problème, c'est que la démo a été vraiment vendue, non pas comme une sorte de bêta ou de test, mais comme une démo à laquelle on accédait si on préachetait le jeu. C'était un avantage pour ceux qui achetaient le jeu. Et du coup, ça la fout un petit peu plus mal encore quand ça ne fonctionne pas bien. On espère que ça va être corrigé la semaine prochaine pour la démo ouverte à laquelle tout le monde peut participer. Ils ont eu ce problème de connexion au début qu'on peut imaginer et que tout le monde a, et c'est normal parce que la capacité des serveurs est toujours est pas dimensionnée pour un afflux énorme. Bon, disons qu'on peut le comprendre. Ça a été réglé dans les quelques heures qui ont suivi, mais il y a eu beaucoup d'autres problèmes qui n'ont pas été réglés, comme ce problème de chargement infini qui, bon, avouons que ça la fout un petit peu mal. Je dirais que le truc qui m'a amusé, c'était que quand on parlait de hype et juste avant le lancement de la démo, tout le monde disait « Ah, le jeu de BioWare ». Et quand il y a eu des problèmes, immédiatement, les gens ont commencé à dire « Ah, mais le jeu d'y est ». Exactement, exactement. C'était assez drôle, mais bon.
Après, c'est les serveurs d'y est, hein, donc...
C'est BioWare qui les gère, hein. C'est BioWare qui gère les serveurs, qui gère la capacité. Moi, d'après ce que j'ai compris, c'est BioWare qui était derrière le truc pour la gestion. Peut-être que c'est les équipes d'EA, c'est possible.
Parce qu'après Origin, c'est EA, il y avait aussi beaucoup de problèmes avec Origin, donc...
Moi, j'ai pas eu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à jouer sur console, enfin, à essayer de jouer sur console, parce que je l'ai précommandé sur PlayStation 4. Et le lendemain, ça marchait toujours pas. Je me suis dit, bon, je vais l'installer sur Origin, voir si j'ai accès. Et en fait, oui, j'y avais accès aussi. Donc, j'ai pu jouer en relançant, en tuant le client et en le relançant quand il y avait ce bug de chargement infini. Et du coup, ça pouvait se reconnecter et ça se lançait. Mais bon, bref, c'est pas vraiment exemplaire comme lancement. On va pas s'étendre plus que ça. À la là-dessus comme lancement pour la démo, c'était plus un test. C'est jamais facile, mais c'est quand même frustrant. C'est jamais facile pour les développeurs d'appréhender tous les problèmes, mais il y a quand même beaucoup de jeux qui y arrivent aujourd'hui et qui font des lancements corrects. Je pense que chaque équipe doit être confrontée à ces problèmes au moins une fois pour apprendre, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre. Tu apprends en faisant. Et BioWare n'a jamais eu ce genre de projet spécifiquement, donc bon. Bref, c'était les problèmes de la démo. On espère qu'ils seront réglés, et surtout qu'ils seront réglés pour le lancement du jeu. J'imagine que dans les 3 heures de lancement, ça va forcément être le bordel, mais qu'après, ça ira et qu'il n'y aura plus ce bug de lancement, de chargement infini. Mais au-delà de ça, le jeu en lui-même, et j'ai beaucoup parlé, donc je vais te laisser la parole, Sébastien. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Il y a quand même beaucoup de promesses derrière ce jeu. Quelles sont tes premières impressions ?
Bah, moi, dès que je teste un nouveau jeu, je regarde les mécaniques de gameplay pur, donc vraiment comment le jeu se joue, la fluidité, etc. Et bah moi, c'est là où j'ai eu une agréable surprise en fait, parce que le jeu est, bah en fait, c'est vachement fluide quoi. T'as un sentiment de puissance énorme en fait quand tu pilotes le javelin, c'est le nom de la combinaison. Et je trouve que BioWare a vraiment assuré de ce côté-là, parce que t'as vraiment l'impression de piloter un Iron Man sous stéroïde, quoi. Donc ça, là-dessus, le jeu est de base vraiment du fun immédiat. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a convaincu, parce que je m'attendais à rien, moi, quand j'ai lancé la démo. J'ai vraiment essayé comme ça. Et au bout de 5 minutes, j'étais à fond dedans, quoi, parce que bon, je suis un gros fan de science-fiction et de méca et de trucs de weeb, d'animé, etc. Et
ça donc, te parle direct, quoi.
Ça me parle direct et vraiment, j'étais à fond dedans.
Ouais, je vais préciser pour ceux qui ne le sauraient pas, j'imagine qu'il y a très peu de gens qui ne sont pas au courant, mais c'est un jeu, donc jeu as a service comparable à Destiny, où on part en équipe faire des missions en tir en vue à la troisième personne, où on pilote donc des armures qui peuvent voler à la mode Iron Man, et ensuite on tire sur tous les ennemis qui bougent. Le moteur Frostbite, donc qui est utilisé par DICE pour Battlefield, pour Battlefront, donc très très beau, voilà. Donc toi, oui, ça t'a convaincu, ces mécaniques de vol. Le tir aussi, c'est quand même hyper important, le moment-to-moment gameplay. Est-ce que c'était satisfaisant également ?
Le tir, est, ça va. Après, perso, moi, je jouais très corps à corps. J'avais tendance à toujours se foncer dans le tas et faire des attaques sautées en permanence. Mais ouais, le tir fonctionne. Pour le coup, c'est, je dirais que le feeling du tir est similaire à du Destiny, mais version vue à l'extérieur. Hein, on n'est pas sur du FPS. Je trouve que le jeu a une... il te permet une liberté, une créativité en fait, vraiment intéressante, parce que quand tu arrives dans une zone comme ça ouverte, c'est ça qui est bien, c'est que les maps sont immenses vu que tu as le jetpack. Ça te laisse une créativité immense pour aborder n'importe quelle situation. Et ça, c'est vraiment, je trouve, la force du jeu, et c'est ce qui fait que c'est pas lassant. Parce que vraiment, dès que tu vois un adversaire, tu peux faire un peu ce que tu veux avec, quoi. Là-dessus, le jeu te propose une power fantasy vraiment énorme, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que, alors j'ai un peu tiqué quand tu dis ouais, c'est un petit peu Destiny le tir. Moi, en grand, grand fan de Destiny et en admirateur total
du feeling
de tir, justement, de Destiny. Oui, oui, mais le tir de Destiny, c'est ce qui fait le jeu complètement, et je trouve, moi j'ai trouvé qu'il est sans doute le meilleur feeling de tir de tout jeu console qui soit. Donc bon, j'aurais tendance à dire qu'il est au-dessus de du reste, mais ce qui m'intrigue par rapport à ce que tu dis, c'est que justement, moi, je l'ai peut-être joué un petit peu comme Destiny, et donc je suis resté en place et j'ai tiré sur tout ce qui bougeait. J'ai pas du tout utilisé cette créativité de mouvement, de corps à corps, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous le décrire un petit peu plus, des situations, comment tu les abordes, pour que ça soit varié et intéressant dans ce jeu qui est différent des autres jeux de tir, peut-être ?
Bah, pour le coup, les mécaniques de vol, en fait, te permettent vraiment de rester en vie longtemps dans les combats. Dès que t'es dans une situation un peu compliquée, si t'arrives à t'envoler et à bien gérer ta surchauffe, etc., tu peux vraiment longtemps esquiver, etc., et de temps en temps faire une attaque sautée pour faire de gros dégâts au corps à corps. Donc moi, je jouais vraiment comme ça. Alors, je sais pas quelle armure t'as joué, parce que chaque armure a vraiment un style de jeu très différent. Moi, j'ai joué beaucoup l'intercepteur et le commando. Je sais pas, t'as joué quoi, toi, comme
Le commando, ça doit être le ranger, donc celui de base.
Ouais.
J'ai pris l'intercepteur et j'ai pas trop adoré. L'intercepteur est très très mobile. Effectivement, il peut faire plusieurs sauts à la suite. Il a beaucoup d'attaques au corps à corps. Et donc celui-là, c'est avec celui-là que t'as été le plus actif.
Ouais. C'est celui-là qui m'a le plus plu parce que tu peux vraiment sauter dans tous les sens, partout. Alors, c'était un peu épileptique sur mon stream d'ailleurs, mais j'en avais un peu de mal des fois parce que vraiment, le jeu te laisse en plus faire beaucoup d'annulations d'animation en fait. Tu sais, comme dans des fighting games. Mmh. Du coup, c'est vachement agréable parce que dès que tu commences un peu à maîtriser les mécaniques, tu peux vraiment faire des trucs... tu peux vraiment contrôler ton javelin à la perfection et faire des trucs très très cool. Et l'intercepteur te permet de faire ça. Donc moi, quand je jouais l'intercepteur, c'est beaucoup de je vole vers massif, j'atterris dessus en attaque sautée, je bourrine un peu au cac, je décolle, j'envoie deux grenades, un shuriken, ensuite je vais à un autre endroit. Donc très très mobile et très corps à corps. Donc moi, c'est comme ça que je jouais. Et avec ce gameplay-là, au final, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Tu peux vraiment soit shoot les mecs à distance, soit juste les rusher au corps à corps et du coup, c'était un peu ça, mon style de jeu perso. Mais après, tu peux pas forcément faire ça avec toutes les armures aussi bien, quoi. Genre, le colosse, rien à voir. L'armure lourde, c'était pas du tout le même délire. T'es beaucoup plus statique, tu peux pas esquiver. T'as un bouclier. Et c'est ce qui fait que le gameplay du colosse est très différent. Il est pas pour autant moins jouissif. Genre, c'est monter une grosse armure avec un gros canon, donc ça a son côté jouissif, ouais. Évidemment, mais c'est pas le même style. Pas le même style.
Ah, c'est très intéressant ce que tu me dis, parce que moi, en fait, le reproche que je ferais à Anthem, enfin, de ce petit extrait qu'on a vu dans la démo, c'était justement une certaine monotonie qui s'est installée au bout de quelques temps et qui n'était pas liée au gameplay lui-même. Il faut que je dise également, j'en rajoute une couche sur ce que tu disais, le feeling de vol est incroyable. Ils l'ont retranscrit vraiment. Pareil, moi, j'ai eu la même impression les 5 premières minutes quand tu pars dans ta première mission, après avoir essayé de te connecter au jeu pendant 2h30, mais donc t'as un petit peu
donc
cette... C'est ça, voilà, exactement, tu dis, bon déjà c'est très très beau, et puis moi j'ai eu un petit peu la même impression que dans Spider-Man sur PlayStation 4, le dernier là de l'année dernière, où les premières minutes quand on te dit, appuie sur la gâchette et là tu te balades, tu te balances d'immeuble en immeuble, c'est genre, ah mais là je suis Spider-Man quoi, je contrôle le truc. Et ben dans ce jeu, dans Anthem, c'est un petit peu je suis Iron Man, c'est genre tu cours, tu sautes, ça fait et puis tu actives les réacteurs, ça fait, bon je vais faire des onomatopées qui vont parler à tout le monde, hein. C'est genre tu t'envoles, tu fais et tu commences à t'envoler, tu vois, c'est
super.
Mais c'est, n'est-ce pas, ça retransmet.
C'est toi qui les as fait d'ailleurs, non?
Ça me donne envie à l'audio.
Non, mais c'est exactement ça. Tu te dis, mais je suis Iron Man. Et après, quand tu commences à maîtriser les trucs, il y a un petit peu de Warframe aussi, pour ceux qui connaissent dans l'intercepteur, dans cette armure-là. Donc ça, vraiment.
Surtout l'intercepteur, ouais.
D'ailleurs, c'est marrant, la communication qu'ils ont fait, c'était vraiment genre, les joueurs de Warframe, je dirais que c'est les trois jeux auxquels on pense quand on voit Anthem, c'est effectivement Diablo, Destiny et Warframe. Et là, c'est vraiment les joueurs de Warframe, venez, on a une armure pour vous. Mais donc ça, c'était vraiment positif. Là où ça m'a paru un petit peu, là où j'ai eu une petite préoccupation, c'est que c'est dans la structure, au-delà du moment-to-moment gameplay, dans la structure générale du jeu. Le problème, en fait, c'est qu'on a trois types d'activités disponibles. Les missions, dans lesquelles on va suivre notre histoire classique, tout, entre guillemets, tout seul. Enfin, même pas tout seul, en fait. On va suivre notre histoire. Les donjons et le free play, où on va aller explorer le monde sans mission précise. Le problème du free play, c'est qu'il est très, très vide. Il y a assez peu d'activités. Ils ont dit qu'ils allaient en rajouter pour le lancement, donc on espère que ça peuplera un petit peu le truc et que ça motivera les gens, parce que là, c'était un petit peu plus chiant que juste que vraiment fun. Donc, il reste les missions et les donjons. Et les deux types d'activités sont instanciés, donc on n'est que les gens qui font partie de l'escouade dans l'espace de jeu, et en matchmaking,
partout, en fait.
Et en matchmaking à 4. Donc, il n'y a pas, comme dans Destiny, un endroit où on va voir tous les autres joueurs.
Ah si, il y aura un hub social à la sortie du jeu.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est... Là, c'est juste, on y va pour montrer ses armures. Quand on est en mission, quand on est en jeu, vraiment, on est en équipe de 4, dans un monde instancié, on ne croise personne. Et donc, les deux types d'activités se ressemblent vachement. Je disais sur Twitter, pour moi, dans ce type de jeu où on doit refaire le même contenu tout le temps, il est très très important que les designers nous donnent l'illusion de faire des choses différentes, même si on est toujours en train de tirer et de remplir des missions pour remplir des barres, pour avoir des armes plus fortes, pour tuer des ennemis plus forts. Il est très important qu'on ait différents types d'activités. Si je prends Diablo, il y a les rifts, les bounties, les saisons, les comment l'histoire, etc. Bon, on fait toujours la même chose, mais on a l'impression de picorer à droite à gauche. Pareil pour Warframe, pareil pour Destiny. Là, je crains que sur Anthem, en fait, c'est toujours mission de 15 minutes, instanciée à 4. Et donc, je crains que ça soit un petit peu problématique pour la répétitivité du truc. C'est le petit souci que j'ai vu poindre sur la démo. Bon, en même temps, on avait 3 missions et un donjon. En même temps, il n'y aura que 3 donjons, si j'ai bien compris, dans le jeu final.
Oui, ça m'inquiète un peu. Hein. Mmh. Il n'y aura que 3 forteresses. Après, apparemment, ce n'est pas le contenu endgame, ce n'est pas les forteresses. Donc je sais pas trop de ce côté, mais c'est vrai que moi ça m'inquiète le fait que le jeu ait peu de contenu endgame, en fait. Genre moi j'ai vraiment qu'une peur, c'est qu'Anthem ait un gameplay que j'adore, mais au bout de 2 semaines on a fait
faire, quoi.
Ça ce serait vraiment triste, mais je pense que du coup le jeu quand même sera certainement bien au bout de cette fameuse année de DLC gratuit que les devs ont promis.
Oui, disons que si on est déjà en train de se dire il faudra attendre un an avant qu'il soit assez varié, c'est un peu... Mais on sait pas, j'ai l'impression qu'ils en gardent pas mal sous le coude aussi, parce qu'on a vu qu'un seul type d'environnement, c'est en général des caves et des forêts. J'imagine qu'ils ont développé d'autres types d'environnements aussi.
Oui, oui, oui.
Ils ont pas beaucoup parlé du endgame, enfin du elder game, enfin... Bon, on verra, mais moi j'avais cette préoccupation, pas tant, à vrai dire, par la quantité de contenu, si les missions étaient un petit peu différentes, mais en fait les missions c'est quasiment des forteresses, c'est quasiment des donjons. Il n'y a pas une énorme différence, si ce n'est que le donjon est un peu plus long, un peu plus dur, avec un gros boss à la fin. Mais c'est un peu la même chose.
Les missions, j'ai l'impression, te font pas mal naviguer en fait, dans la map ouverte, alors que les forteresses, c'est vraiment une map unique.
Ouais.
Je crois que c'est peut-être ça la différence. T'as vraiment l'impression de progresser dans un environnement unique. Donc, c'est un peu des extensions de map, les forteresses, j'ai l'impression, en fait.
Ouais, ouais. Bon, donc on verra. Là, c'était que la démo. Je suis sûr qu'on en reparlera dans un mois pour le lancement du jeu. Mais moi, c'était mes deux. Si on doit retenir 2 choses, c'est le vol. Vous avez bien compris. Voilà, c'est super. Et la préoccupation sur la répétitivité du type d'activité, en fait. Mais
bon. Si je puis me permettre, d'ailleurs, d'un point de vue assez extérieur, je trouve ça très, très rassurant d'entendre ce que vous dites sur le vol, parce que c'est vraiment ce qu'ils ont mis en avant dans les trailers qu'on a vus, et un point crucial, je pense, pour le jeu. En voyant ça, on s'est tous dit, on espère que c'est aussi agréable à faire que ce qu'on essaie de nous vendre là dans les vidéos, et ça a l'air d'être le cas, et je pense que c'est un des enjeux vraiment cruciaux pour le jeu. C'est très rassurant d'entendre que ça a l'air d'être le cas, je trouve.
En fait, ouais, c'est vraiment bien géré, le vol, et encore une fois, je trouve que, pour moi, c'est ce qui fait vraiment la force d'Anthem par rapport à Destiny. Moi, Destiny, tu vois, j'ai pas vraiment accroché. Et Anthem, j'adore parce que t'as un sentiment de surpuissance. Parce que les devs, en fait, ont designé les javelins au centre du gameplay. Évidemment, le javelin, c'est tout. Quand tu te connectes, ton armure, elle est au milieu de la ville. C'est le truc le plus important. Donc, c'est vraiment, les devs ont vraiment mis ça au centre du jeu. Et c'est bien vu parce que, en plus, vu qu'il n'y a pas de PVP, les devs ont vraiment pu designer les javelins comme étant complètement OP. T'es dieu quand t'es là-dedans. Et j'ai pas ce sentiment de toute puissance dans Destiny, tu vois. Et c'est ce qui me fait vraiment me marrer sur Anthem, c'est que j'ai l'impression vraiment d'être dans mon Gundam et juste de pouvoir exploser tout ce qui bouge sur la map. Et ça, c'est ce qui me manquait un peu avec Destiny, où t'as des spells OP, etc. Mais tu restes quand même un soldat avec ton gun, etc. Alors que là, t'étais juste Tony Stark en vacances sur Pandora, quoi. Donc, pour le coup, c'est vraiment ça qui, je trouve, fait vraiment la force du jeu et qui fait que c'est fun à faire, même s'il n'y a pas de PVP. Et pourtant, moi, je suis vraiment un fan de PVP à la base. Et moi, au final, ça ne me dérange pas qu'il n'y en ait pas, parce que je sais que ce serait complètement pas équilibré s'il y avait du PVP sur un jeu qui te propose de te déplacer comme ça et qui te propose des compétences aussi pétées, quoi. Donc là-dessus, je trouve que c'est bien vu, le fait qu'ils aient pas mis de PVP, en fait.
Ouais.
Il y a quelque chose qui me rappelle de loin, je sais pas si vous aviez joué à ces jeux-là, aux 2 Xenoblade Cross sur Wii U et tout ça, où j'ai l'impression que c'était un peu la promesse, et niveau feeling, c'était pas du tout ça, les mechas. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans le thème, là, et ça me rend curieux d'essayer, ne serait-ce que pour...
Si t'aimes bien le gameplay nerveux dans des tas de jeux avec du mecha, etc., ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Okay. C'est hyper nerveux, hein, vraiment.
Ouais, je pense que ça vaudra le coup pour si on l'envisage comme un jeu solo où on va au bout de la mission de la campagne. Bon, la campagne n'a pas l'air captivante, mais il y a quand même, sans spoiler, il y a quelques trucs marrants qui se passent dans les quelques missions qu'on a.
C'est BioWare quand même.
Ouais, j'irais que...
Il y a des bonnes surprises potentielles. Hein.
Potentiellement, ouais, c'est vrai. Les dialogues sont quand même... Moi, j'ai trouvé ça pas très bien joué. L'interaction, en fait, entre notre personnage et les autres... D'une part, les choix ne servent absolument à rien. On a genre deux choix de temps en temps, mais c'est vraiment pour dire qu'ils en ont mis.
C'est gadget.
C'est complètement gadget. Et puis... On sent que les lignes de dialogue ont été enregistrées complètement à part. Mais enfin bon, ça à la limite c'est accessoire. Pour conclure, je dirais que...
Après il y a l'autodérision. Il y a pas mal de moments d'autodérision justement qui je trouve sont rafraîchissantes par rapport à du Destiny où par un moment t'as une mission et t'entends un des freelancers qui fait va chercher les autres trucs qui brillent. Et la fille dit les échos, comme ça, en mode non, mais c'est les échos. Il fait ouais, les échos, ouais. Et du coup, t'entends ton personnage qui dit ça, et je trouve ça génial parce que c'est tous les joueurs en fait qui sont comme ça. Ouais. Et donc, t'as le personnage qui casse un peu l'immersion, mais je trouve ça génial parce que bah oui, c'est des trucs qui brillent et c'est pour la mission. Et ça montre bien qu'il y a un peu quand même de self-conscious. Ils sont un peu quand même, ils savent que bon, ça reste quand même qui n'a aucun sens dans le futur, quoi. Donc ça, c'est cool, je trouve.
Bon, donc on verra quand le jeu sortira. La démo ouverte est disponible dans une semaine et pour le week-end également. Et comme je le disais, je suis complètement d'accord avec Alpha, malgré mes préoccupations. Le cœur du gameplay est quand même très sain. Il est assez fun. Le tir, ça va. Le vol, super sympa. Donc l'essentiel, c'est pour ça que je suis pas trop préoccupé non plus. L'important y est. Après, on peut meubler autour. Ouais.
Donc, le cœur y est, c'est ça. Ouais, et en fait, le jeu va simplement souffrir, de manque de contenu ou de manque de bonnes idées, mais rien qui puisse être réparé, je pense.
C'est ça, ouais.
À terme, le jeu, à mon avis, sera très sympa.
Bon, on verra. Ça se trouve, ils en ont caché plein et on va voir plein de trucs intéressants au moment de la sortie. On en reparlera, évidemment, dans l'émission. Puisque le cœur y est, je voudrais parler de Kingdom Hearts... la série, mais juste avant, je vais quand même, n'est-ce pas, mais je vais quand même avant dire deux mots sur Mortal Kombat 11, qui a quand même été révélé au monde il y a une semaine. Alors, je ne sais pas si vous êtes fan de la série Mortal Kombat, mais j'ai trouvé qu'ils avaient... Ah, quelqu'un de bien. J'ai trouvé qu'ils arrivent quand même à monter dans le gore et le sordide et le grotesque. C'est plus le grotesque que le sordide, d'ailleurs, avec une élégance absolument invraisemblable. Mortal Kombat a toujours été marqué par ses fatalities, ses mises à mort qui sont aussi sanglantes que séduisantes, qu'élégantes, c'est ça exactement. Et il y en a là dans celui-là, mais qui sont invraisemblables. Je voudrais parler d'une de ces fatalities, pour pas spoiler le reste. Il y a un nouveau personnage qui contrôle le sang, en fait. C'est une sorte
Bloodmancer.
Mais je plaisantais avec ça dans mon émission en anglais. Je disais, je pense que les gens qu'est-ce qui fait Mortal Kombat
NetherRealm.
NetherRealm, merci, oui. Ouais. De NetherRealm sont en fait ont un bonus indexé sur l'inventivité qu'ils ont dans les fatalities. Mais toute la boîte s'y met pour trouver celle-là. Là, il y a cette nana qui, pour une fatalité, donc mort. Enfin, on a perdu et elle va nous mettre à mort. Et donc elle, ou plutôt, pourquoi je m'identifie à la personne qui est mise à mort? Pas du tout. Donc moi, je m'identifie à la nana qui fait cette mise à mort. Elle, comme ça, elle te vide le sang elle le contrôle en télékinésie. Elle te vide le sang de ton corps. Donc déjà, a priori, t'es plus très en forme. Elle te vide le sang. T'as le sang qui reste au-dessus de ton corps comme ça. Elle le gèle en énorme pieu. Et puis elle t'envoie les pieux dans tout le corps. Elle te poignarde avec tous les pieux, avec ton propre sang. Et après, elle en garde un et elle te le fait passer à travers de la tête. Et on voit de l'arrière du crâne avec l'œil qui sort du crâne. Mais invraisemblable. Et c'est, je sais pas comment ils réussissent à trouver cet équilibre entre vraiment dégueulasse et juste amusant, quoi. Et ils y arrivent très très bien. C'est tellement gros en fait que ça fait rire. Donc,
c'est vrai. Mais il y en a certains qui sont borderline. Il y en a certains qui sont border. Je me souviens, je crois que celui que dans le précédent, dans le 10 ou le 9, je sais plus. C'est celui où, je crois que c'est celui de Air Mac, où il te fait sortir les tripes. Sur celui-là, pour le coup, je le trouvais pas forcément fun.
Ouais. Non, c'est vrai qu'il y en a qui sont.
C'est vraiment. Il y en a certains, c'est juste dégueu. Mais bon, ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une sacrée activité autour de ça. Tout le monde est fasciné. C'est marrant. T'as juste à voir sur YouTube les vues que font les compilations en fait de Fatalities de tous les Mortal Kombat. C'est un truc de fou. Hein. Ça fascine tout le monde.
Ouais.
Et après c'est dur hein, la limite à trouver, je pense, la frontière entre le fun et le gore. Ces quelques fatalités qui sont juste un peu dégueu et moins drôles. Là, toutes celles qu'on a vues dans ce nouvel épisode, pour l'instant, je trouve, arrivent à bien avoir ce savant mélange de gore et de drôle. L'exemple que t'as donné, Patrick, est très bon. Je trouve c'est une espèce de version extrême du pourquoi tu te mets des claques en prenant la main de quelqu'un. Pourquoi tu t'empales avec ton propre sang? Et il y a quelque chose de fun là-dedans, alors qu'on parle de quelque chose d'horrible. Et je pense que c'est vraiment le salut de la série, parce que personnellement, je dois dire que j'ai l'air d'être un peu moins fan que vous. Je trouve que la série me paraît de plus en plus sérieuse au fil du temps, et je trouve que c'est très nuisible pour elle. Avant, dans les premiers, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait ce type qui sortait de l'écran
Toasty.
Et qui gueulait Toasty. Voilà, parfois il y a des trucs vraiment purement loufoques. Il y avait les Babality, il y avait les Friendships, ce genre de trucs.
Je crois qu'il y a encore, non ?
En tout cas, dans
pas
le
de
Babality,
je crois
semble
pas.
Il reste vraiment du décalage. Hein. On sent que c'est pas totalement premier degré, mais je trouve que c'est un peu plus dur à noter ce côté vraiment décalé tout le temps.
En fait, ils sont très sérieux, mais ils ne cassent pas le quatrième mur, justement, comme on disait, ou très très peu. Donc, mais ça reste, le sérieux reste quand même, ils se prennent tellement au sérieux que tu comprends que c'est pas sérieux.
Oui,
mais
c'est ils le disent jamais. Du sérieux de série B, quoi, du sérieux de film des années 90 de bourrin.
Mais ils adoptent complètement cet aspect série B eux-mêmes.
C'est vrai.
Bon, et donc ça c'était. Voilà. Oui, c'était un petit mot sur Mortal Kombat.
Il y a eu pas mal de choses sympas sur le gameplay aussi, si très rapidement.
Bah, vas-y.
Où ils ont révélé tout un mode où on peut créer son propre perso en piochant dans différents styles de manière beaucoup plus libre que c'était le cas dans le précédent épisode où il y avait déjà trois styles par perso, si je me trompe pas. Et là, on peut créer son propre personnage en piochant dans différents styles. Et la nouveauté, c'est que ils assurent que ce sera compatible avec des modes compétitifs. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à avoir de la compétition de Mortal Kombat avec des joueurs qui créeraient leur archétype de personnage. Ça paraît ultra savonneux, ultra casse-gueule.
Dans l'équilibre, ouais.
C'est sûr, mais s'ils viennent avec ça de manière assez confiante, on peut se dire que ça peut donner quelque chose de au moins original. Alors le jeu de combat a essayé plein de choses originales qui n'ont jamais marché malheureusement en termes de compétition, mais ça pourrait être le cas ici, ça peut être intéressant de voir comment ça va être utilisé, je pense, ce mode-là.
Ouais. J'ai l'impression que le succès de Mortal Kombat et de NetherRealm en général, c'est sa capacité à faire du jeu solo beaucoup plus motivant que les sociétés japonaises en général dans le jeu de combat. Donc, et là, c'est le cas aussi, il y a une bonne partie histoire, et puis surtout cette histoire de Towers...
Le solo du MK9, moi je me souviens, j'avais adoré. Hein, et pourtant, les solos de jeux de combat en général.
Généralement, c'est pas ça.
C'est anecdotique. Ouais. Quoi.
Mais c'est vrai que Mortal Kombat commence à avoir une longue tradition derrière lui de solos assez bossés.
Tout à fait, ouais. Il y a quelqu'un qui t'appelle, Sébastien. J'allais faire une blague, mais je vais pas la faire. Je vais plutôt parler de Days Gone. Days Gone, pour lequel on a eu encore une petite vidéo. Je continue à garder l'espoir pour ce jeu. Je me dis, ça pourrait être sympa. C'est une vidéo sur la moto du personnage. Et on se dit, mais enfin, faire une vidéo pour la moto, quelle connerie. Et en fait, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas cette histoire de, faut la garder en forme parce que, quand tu t'arrêtes quelque part et qu'il y a les zombies qui arrivent en courant comme des malades, eh ben il faut pouvoir se barrer rapidement. Et qu'est-ce qui est mieux que de courir comme un idiot ? Eh ben c'est de partir en moto. Et je sais pas, ça a installé une sorte de tension dans la fuite qui pourrait être donné quelque chose de sympathique. Moi j'ai trouvé que ça pourrait marcher. Il y a encore un gros conditionnel sur ce jeu, mais moi je garde espoir parce que je suis un optimiste
dans l'âme.
Éternel, voilà.
Il y a quelque chose quand même qui... Parce que dans la vidéo que je l'ai regardée juste avant, là, il parle même de moto en tant que point de respawn quand on perd, etc. Donc ça a l'air d'avoir une fonction de gameplay très très importante. ça a l'air un peu central en fait, et j'y vois une espèce de parallèle avec la voiture de Final Fantasy XV, dans le sens où dans toute la vidéo là, on n'a pas vu la moto sortir une seule fois de la route. Et si ça a une fonction de respawn, etc., en voyant la vidéo là, je me suis demandé si ce serait pas donc le truc de
on
la voiture.
On peut pas sortir de la route avec la moto.
C'est... Ouais, voilà, c'est ça. Et ce qui pourrait être peut-être un peu décevant dans
non,
l'idée.
Mais
je sais pas forcément le cas, hein, mais juste comme il se trouve que dans la vidéo là, on voit jamais la moto en dehors de la route, et cette idée de point de respawn, tout ça me laisse penser que ça pourrait être effectivement qu'on nous laisserait pas non plus faire tout ce qu'on veut avec cette moto. Voilà.
Tu essayes de mater mon enthousiasme, mais tu n'y arriveras pas, Kevin.
Je n'y arriverai pas, d'accord.
Impossible. quoi d'autre ? Il y avait The Division 2 qui commence à faire un petit peu de bruit. Il y a Metro Exodus qui a dévoilé une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous avez des trucs à dire là-dessus.
Ah bah Metro, quoi.
Incroyable, on a un fan de Metro, très bien.
Ah oui. Franchement, Metro, probablement un des meilleurs FPS solo auxquels j'ai joué dans les dernières années. Hein.
Qu'est-ce qui fait que Metro est différent des autres FPS solo qu'on... Parce que moi, je n'y ai jamais joué, donc je reste un petit
l'ambiance.
Peu extérieur à... Ouais. C'est les Ukrainiens qui font ça mieux que personne, la désolation et le...
Bah pour le coup, juste quand t'es comme ça dans le métro, dans le noir avec ton masque à gaz et genre t'as une bestiole qui te saute au visage, t'as le sang de la bestiole sur le masque à gaz, tu vois ton perso qui l'essuie, mais tu vois à peine parce que ton masque est dégueu, ensuite il se fait casser, tu dois changer de masque à gaz. Enfin genre, je trouve que l'ambiance, l'immersion est incroyable dans les jeux métro. Et le bestiaire est exceptionnel. Moi, ça me rappelle évidemment fortement Stalker, qui avait été quand même un très bon FPS, MMO, pas MMO, RPG FPS, il y a quand même quelques années maintenant. Et Metro, je trouve que c'est juste un truc de fou niveau ambiance. Et le gunplay est excellent en plus. De même que le scénario qui suit bien. Je trouve que Metro, c'est juste un FPS solo qui est hyper bien maîtrisé. Donc forcément, le nouveau, moi, m'intéresse beaucoup.
Il semble sortir un petit peu de sa zone de confort, vu que là, on n'est plus dans le
littéralement.
Métro. Littéralement. Ouais, c'est ça. Ouais, on explore, si je me gourre pas, l'ouest,
tout à fait,
en gros, ou l'est, je sais
c'est
plus.
C'est ça. Mais d'ailleurs, j'ai un peu
c'est
peur
Exodus,
de ça, parce que j'aimais
oui,
beaucoup
Exodus,
le côté claustrophobe des anciens. Donc là, j'espère qu'ils vont arriver à bien gérer le côté gameplay en extérieur. Il y a des phases de jeu en extérieur dans 2033 et Last Light qui sont très bonnes, où t'es dans des marais comme ça et c'est infernal, t'as vraiment du mal à te repérer. J'espère vraiment que ça va pas se transformer en Far Cry-like open une fois qu'on est dehors, quoi. Mais je ne pense pas, honnêtement. Je pense que ça va rester quand même très linéaire. Et au final, bon, même si le linéaire, c'était un peu un mot qui faisait peur à beaucoup de développeurs il y a quelques années, ça reste quand même excellent quand tu as un FPS ou n'importe quel jeu qui est vraiment... porté par l'histoire. Donc moi, si ça reste linéaire mais que l'immersion y est toujours, banco, il n'y a aucun problème.
Écoute, on aura la réponse très bientôt puisqu'il sort le 15 février. Donc on saura très vite.
Ça commence bien cette année. Hein.
Oui, bon, ça c'est... Ouais. et d'ailleurs, oui, il y a The Division 2 qui sort 3 semaines après Anthem, donc il y aura de quoi faire. Ouais. D'ailleurs, Division 2, ils ont retravaillé le PVP de manière assez intelligente. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs Dark Zones. Les Dark Zones sont un petit peu moins dangereuses, sauf une qui est tournante où c'est l'ancienne Dark Zone d'avant. Donc on peut, c'est très intelligent les changements qu'ils ont fait. On en reparlera peut-être au moment de la sortie, mais il y a effectivement une manière et il y a des vrais champs de bataille classiques aussi pour le PVP. Donc sur l'aspect PVP, ils ont l'air d'avoir fait du bon boulot, voir sur l'aspect PVE ce que ça donne.
Ah, c'est bien ça, parce que pour le 1, c'était un peu un des côtés, moi, qui m'avait refroidi. Donc, s'ils retravaillent ça bien, ça peut être intéressant.
Le concept des Dark Zones en PVPVE était super intéressant, mais c'est vrai que ça fonctionnait pas aussi bien qu'on aurait pu l'espérer. Et là, ils ont adressé certains de ces soucis. Donc, bon... Le moment est venu, on va maintenant, en fait Sébastien et moi allons découvrir les raisons de l'amour que certaines personnes ont pour Kingdom Hearts 3, enfin ouais. Kingdom Hearts, et alors juste avant je vais quand même évoquer le titre de cet épisode, en fait on va pas parler de Kingdom Hearts 3 vraiment, on va parler de tout ce qui vient avant Kingdom Hearts 3, une partie. Et donc, on va parler de Kingdom Hearts plus petit que 3. Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 2.5, Kingdom Hearts 2.8, HD Remix. Et donc, plus petit que 3. Et donc, plus petit que 3, ça fait quoi ?
Ça fait le cœur.
Et voilà. Et là, mais c'est un trait de génie. Bravo, Patrick. Vous applaudissez, vous tous, dans vos métros et dans vos voitures. Je suis très, très fier. Bref, donc, Kevin, qu'est-ce que c'est que Kingdom Hearts ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Je ne sais pas si on peut te poser toutes les questions en même temps, mais pourquoi est-ce que les gens adorent ? Ça serait peut-être la première. Ouais. Ensuite, je vais te demander pourquoi est-ce que ce mec bizarre se bat avec une clé géante ? Pourquoi est-ce qu'il y a Mickey et Dingo et tous les personnages de Disney qui se baladent dans un RPG japonais ? Je ne comprends rien, moi. Donc, dis-nous tout.
Alors, il va falloir admettre certaines choses, hein, parce que sinon, s'il faut expliquer tout la raison de la présence de chacun de ces personnages, ça va être compliqué, ça va mettre 1h20 comme dans le Cozy Corner, t'en parlais tout à l'heure. Pour répondre à la première question, en gros, pourquoi les gens aiment Kingdom Hearts, je pense qu'il faut un peu expliquer rapidement ce qu'est Kingdom Hearts, comment c'est né. C'est aux alentours de un peu avant 2002, puisque le premier jeu est sorti en 2002. Squaresoft, à l'époque, on n'est pas encore. C'est avant la fusion Square Enix qui a eu lieu en 2003. Des grands pontes, entre guillemets, chez Squaresoft se déplorent un petit peu le fait qu'ils auraient beaucoup de mal à créer une série avec des personnages aussi populaires que ne peuvent l'être Mario pour le jeu vidéo ou les personnages Disney pour le monde de l'animation. Et la légende dit que Squaresoft, partageant ses locaux avec Disney à l'époque au Japon, une conversation fortuite dans un ascenseur et fait qu'un exécutif de Disney dise « Bah si, pourquoi on ne ferait pas ça ? Prenons les personnages de Disney, faites un jeu, on fait un jeu ensemble. » Et ça partirait de là à la base. Et alors que Disney voulait plutôt un jeu adapté vraiment d'un film Disney où on ne contrôlerait que des personnages Disney, etc. Du côté Squaresoft, ils ont très rapidement voulu, au contraire, donner un feeling très similaire à celui d'un parc d'attractions Disney, c'est-à-dire plein de poches, de mondes de Disney différents qui représentent chacun des films. Et donc, il a très vite été question de faire une espèce d'histoire générale qui dépasserait un peu chaque monde Disney, et de réunir tous ces mondes autour d'une histoire générale. Ça, c'est l'idée de base qui a donné lieu donc à cette série dont le gameplay se rapproche de celui d'un action RPG. C'est du RPG très light en termes de statistiques et qui est très très immédiat dans le gameplay. On appuie, on frappe donc avec cette fameuse grosse épée et c'est très immédiat. Et ça, c'est le principe de base de la série. Et il se trouve qu'il marche plutôt bien quand le jeu est sorti en 2002 sur PlayStation 2. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans le fait de voir ces différents personnages de Disney dans leur monde respectif, parce que pour le coup, chaque monde reste clos. On ne rencontre, dans le premier épisode, on voyait Tarzan par exemple. Tarzan n'évolue que dans son monde à lui, etc. etc. On ne mélange pas tout, c'est pas non plus une espèce de bouillie où on mélangerait tous les personnages de Disney, auquel cas ça pourrait un peu, les designs pourraient jurer les uns avec les autres. Là, c'est pas le cas. Et c'est une espèce de jardin de comme un Disneyland, quoi, une sorte de parc d'attractions où on va d'attraction en attraction en découvrant de nouveaux personnages à chaque fois. Et ça marchait plutôt bien. Et je pense que le concept a beaucoup plu. Il y a aussi, j'ai oublié de préciser, c'était assez important, pour compléter ça, Squaresoft en a fait aussi une espèce de compile de ces Final Fantasy ou de ces jeux, mais en principalement Final Fantasy. Donc en plus d'avoir une espèce de All Stars de Disney, on avait aussi du All Stars de Final Fantasy avec Cloud de FF7, Tidus de FF10, etc., etc. Donc il y a un côté jeu extrêmement fanservice qui par essence plaît énormément aux gens qui sont sensibles à ces univers, quoi.
Et du coup, tout ça, c'est encapsulé dans un JRPG très classique.
Vraiment action RPG, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté JRPG,
c'est pas tour par tour, etc.
Voilà, c'est ça.
C'est vraiment sinon, contrôle Sora, donc le personnage principal, j'imagine qu'on en contrôle d'autres aussi, et on se balade sur l'aire de combat et on va asséner des grands coups de, alors qu'on dit clépé selon la forme consacrée de Kevin.
C'est, C'est ça, c'est une formule un peu maison, le terme Keyblade, qui est le terme officiel en japonais comme partout, dans toutes les langues en fait. Keyblade n'a pas été traduit. Keyblade, là pour le coup, on touche plus au scénario du jeu. Et je peux peut-être le résumer très 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 rapidement.
Alors, je t'ai donné le défi de résumer en 2 minutes. Ouais, ce que tu as résumé en 1h20 auparavant. Donc, je ne sais pas si tu réussiras. Mais allons-y, voyons.
C'est faisable en restant vraiment dans les grandes grandes lignes. Dans Kingdom Hearts, dans le premier Kingdom Hearts, on nous présente donc Sora, que tu as nommé, qui est le héros du jeu et qui est de la série en fait dans son ensemble, et qui avec ses amis Riku et Kairi sont paumés sur une petite île déserte, qui est aussi un monde donc désert, vu que Kingdom Hearts considère que c'est un univers dans lequel il existe plusieurs mondes qui sont séparés, entre lesquels on peut voyager sous certaines conditions. Et donc, ce sont ces trois ados qui rêvent d'aventure et qui finissent. C'est très classique, hein, leur île est justement envahie par une espèce de fléau qui s'appelle les sans-cœurs. Ce sont des petites créatures noires qui apparaissent quand les gens laissent leur cœur, par cœur, il faut entendre l'âme, entre guillemets, se faire envahir par les ténèbres, par la noirceur. Et donc, ce fléau touche de plus en plus de monde. Notre héros, Sora, est amené à voyager de monde en monde pour combattre ce fléau. Ça c'est le principe de base.
Ouais, après il y a eu quoi, passé... 15 jeux
C'est ça en fait. C'est ça, c'est qu'il y a eu le premier jeu en partant de ce constat simple, on finit par boucler le problème. Sora règle le problème avec le joueur, avec lui on règle le problème. Sora est accompagné par Donald et Dingo, qui sont ses compagnons dans tous les Kingdom Hearts quasiment, parce que ce sont des personnages importants. Il existe le roi Mickey dans Kingdom Hearts, bien sûr, et Donald et Dingo sont ses capitaines de garde et de magie, entre guillemets.
Et est-ce qu'on comprend ce que Donald dit ?
Alors, c'est compliqué, parce que mais c'est un point important, parce que ce sont les doubleurs officiels, les comédiens de doublage officiels sont là. Et donc, effectivement, on a la voix de Donald, que personnellement, je ne sais pas faire. Certaines personnes ont ce pouvoir-là. Moi, je ne sais pas la faire.
Ça ne fait pas partie de tes super-pouvoirs, bon.
Effectivement. Et donc oui, on le comprend mal, mais les sous-titres aident heureusement à comprendre ce qu'il
y a. Et même en japonais, ils ont des voix japonaises ou c'est les doubleurs officiels aussi?
Alors quand je dis les doubleurs officiels, c'est les doubleurs officiels dans la langue localisée. Donc, il me semble que ce sont les doubleurs officiels japonais au Japon et etc. Voilà, c'est ça.
Donald avec les accents.
Exactement.
Je crois d'ailleurs c'est une des controverses qu'il n'est pas doublé en français.
Effectivement, ouais, le troisième épisode n'est pas doublé en français. Alors, c'est pas le premier.
Les précédents
qui n'est pas doublé en français.
Ah, d'accord. Hein. Oui.
Les Kingdom Hearts 1 et 2 étaient doublés en français, qui restent. Il y a eu une tripotée d'épisodes annexes entre temps, mais les épisodes numérotés sont évidemment les plus importants. Ceux-ci étaient doublés en français. Et ça n'a plus systématiquement été le cas, mais c'était pour des épisodes annexes, donc je pense que tous les fans espéraient que le 3 le serait, parce que c'est Kingdom Hearts 3, on l'attend depuis 15 ans quasiment, et c'est un jeu très
très important.
Quand est-ce
qu'il est sorti le 2? Je ne sais pas si tu as la date sous la main.
Le 2, il est sorti, je ne veux pas dire de bêtises, je peux le vérifier au cas où, je crois qu'il est sorti vers 2004, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de 15 ans quand même depuis le 2. Donc c'est quelque chose d'important tout de même. Et Kingdom Hearts 2, pardon, je me trompe, j'ai vérifié, il est sorti en 2006. Donc c'est
on est quand même à 13 ans, oui. Bon,
c'est
après
ça,
il y a
ça
eu les autres épisodes, mais c'est pas la même chose quand c'est pas canonique.
Voilà. Mais alors justement, si ça c'est important, le truc c'est que tout est canonique dans Kingdom Hearts. Et c'est ça qui rend la série. Là, j'ai résumé le scénario du premier épisode en gros. Et ce qui arrive, c'est qu'en gros, on sent qu'au bout d'un moment, donc Tetsuya Nomura, qui est la personne qui est à la tête de cette série depuis le début, elle l'a fait basculer dans une espèce d'embrouillage mini scénaristique complètement incompréhensible. C'est ça que je ne pourrais pas du tout résumer ici. Il faut juste se dire qu'en gros, l'enjeu général, ça devient un certain personnage qui s'appelle Xehanort, qui est le grand méchant, entre guillemets, veut... c'est une histoire assez classique, hein, finalement. Il veut devenir maître de son destin en acquérant toute la connaissance disponible dans le Kingdom Hearts, qui donc représente une espèce d'entité qui renfermerait le savoir absolu. Et il se trouve que ce personnage est prêt à aller, est prêt à faire le mal pour récupérer ça. Et c'est ce qui fout un peu le bordel partout au sein, enfin à travers, oui, 10 épisodes annexes sur 5 supports différents, mais qui sont tous canons, quoi. Tout est, il faut avoir, il faut connaître ce qui s'est passé dans chacun de ces épisodes pour comprendre ce qui va se passer dans Kingdom Hearts 3, en sachant que entre temps, on nous a quand même parlé de voyages dans le temps, de deux sortes différentes de voyages dans le temps, même avec deux règles différentes, de systèmes un peu, de principes un peu quasiment d'horcrux, comme dans Harry Potter, si ça vous évoque quelque chose, une personne qui peut se diviser en diviser son âme dans plusieurs personnes. Donc c'est deux personnes aussi qui quand ils perdent, quand ils laissent leur cœur se faire envahir par les ténèbres, laissent derrière eux une enveloppe qui devient un autre personnage à part entière. C'est incroyable. C'est vraiment, ça devient presque comique de confusion.
Et j'ai l'impression, et d'après 3, les premiers retours, ouais, que le 3, c'est peut-être ce que tu allais dire, n'explique pas vraiment ce qui s'est passé. Visiblement, c'est impossible, donc c'est peut-être pas plus mal. Mais il te lance dans le truc, et c'est genre, bon, tu peux peut-être apprécier le jeu. Je crois que sur le Slack des Patreons du Rendez-vous Tech, quelqu'un disait, en fait, c'est comme commencer à regarder les films du Marvel Cinematic Universe avec Infinity War. Donc, oui, tu vas peut-être t'amuser, mais tu vas pas te comprendre, quoi.
Ouais, je pense. Alors, malheureusement, moi, j'ai pas vu. Je suis très très largué dans tout ce qui est MCU, mais j'ai l'impression que la comparaison est très pertinente, ouais, dans le sens où Kingdom Hearts 3. C'est...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est la conclusion, elle s'est vendue en tout cas comme la conclusion de tout un arc scénaristique qui aurait commencé avec Kingdom Hearts 1. C'est pas la fin de la série Kingdom Hearts, on sait déjà qu'il y aura d'autres, enfin que Tetsuya Nomura en tous les cas a très envie de continuer. Mais c'est la fin de tout l'arc scénaristique. Donc qui...
Je crois que pour répondre à cette interrogation qui n'en est pas une, il faut se demander, est-ce que Square Enix, comme toutes les autres sociétés et tous les gens du monde, aiment bien l'argent? Et oui, si la réponse est oui, tu dis qu'il y en aura d'autres. Donc oui, effectivement.
Voilà, absolument.
Mais c'est quand même la conclusion de l'arc, quoi.
C'est la conclusion, voilà, de l'arc qui compte, donc oui, une quinzaine d'épisodes. Non, pardon, en quinzaine, je compte les remakes. Mais disons une dizaine d'épisodes ont beau être annexes, sont encore une fois canoniques. Donc, il y a aussi cet enjeu, comme il existait, je crois, dans Infinity War, de dire, tout ce qu'on vous a montré, tout ce qu'on a développé pendant 10-15 ans, 17 ans, dans le cas de Kingdom Hearts, en tout, va trouver une espèce de conclusion ici, quoi, en tout cas de climax ici. Et effectivement, j'ai l'impression, moi-même, je n'ai pas encore lancé le jeu, je l'ai là, hein, j'ai pu me le procurer, là, je l'attends, il est à côté de moi, mais je ne peux pas y jouer pour l'instant, c'est assez terrible.
Mais oui,
j'attends
ton frère,
15 ans,
évidemment.
Exactement. Ah oui, bah oui, c'est vrai que tu as écouté le dernier Cozy Corner. Ouais, j'attends mon frère pour pouvoir le lancer avec lui.
Mais j'ai l'impression que là, on touche un petit peu aussi à l'une des raisons pour lesquelles les fans, la communauté des fans de Kingdom Hearts l'aiment autant. Ça touche à Disney, on se balade dans tous ces différents mondes qui sont comme des attractions d'un Disneyland, d'un parc Disneyland, qui sont... J'ai l'impression qu'en France, quand même, on n'est pas hyper fan de Disney parce que c'est genre les gros Américains et leur fun industriel, machin. Mais il n'empêche que quand même, quand on est enfant, on aime bien les films Disney. Donc, il y a des gens qui ont connu ça quand ils étaient jeunes et ça leur parle quand même. Et il y a une sorte... On se laisse porter, malgré notre cynisme, par cet enchantement. Et puis, puis, c'était un truc, effectivement, qui, il y a une quinzaine d'années, il y a beaucoup de gens l'ont découvert quand ils étaient relativement jeunes, avec les amis, avec la famille, et ça contribue à cet attachement émotionnel qu'ils ont avec le jeu.
Oui. Ouais, je pense que c'est à vrai dire, enfin, dans mon cas, en tous les cas, c'est surtout le deuxième point là que t'as mentionné. Il se trouve que dans mon cas tout à fait personnel, Disney, c'est pas quelque chose qui me... J'en ai vu gamin comme tout le monde et j'ai apprécié aussi, mais c'est pas quelque chose qui m'a énormément touché. C'est pas ça qui m'a attiré en fait dans Kingdom Hearts, c'est plus ce que tu décris, c'est-à-dire que c'est une série qui a 17 ans. Étant de mon côté trentenaire, ben c'est quasiment la moitié de ma vie, quoi. Enfin, non, c'est plus de la moitié de ma vie en réalité. Et j'ai commencé ce jeu, j'étais ado, et là l'idée de finir cette saga, alors aussi erratique et bordélique soit-elle en termes de scénario, ça fait quelque chose. Il y a quelque chose de personnel là-dedans, quoi. On met de la nostalgie là-dedans. On pour peu qu'on ait suivi la série. Tout au long de sa vie, hein. On peut très bien avoir joué au premier Kingdom Hearts et avoir décidé qu'on s'en foutait depuis. Mais si on a suivi, oui, il y a quelque chose, comme tu dis, de très générationnel et d'assez dingue dans le fait de se dire qu'on va finir ça maintenant. Ce qui amène donc, c'est ce que tu disais aussi, à ce qu'on se retrouve avec mon petit frère à se dire bon, ben, on va essayer de lancer le jeu ensemble, quoi. Parce que c'est forcément quelque chose d'assez important pour nous. Et je pense qu'effectivement, ça répond beaucoup à la question de pourquoi c'est un genre de phénomène. C'est assez inédit, je pense, dans le jeu vidéo, ce côté 17 ans de jeux sortis sur différents supports, de plein de manières différentes, mais qui forment une seule et même histoire. On n'est pas sur une saga comme Final Fantasy, dont chaque épisode est séparé des autres. On est sur une vraie saga, une vraie série d'un bout à l'autre. Ça me paraît assez inédit dans le jeu vidéo.
J'ai l'impression... C'est pas exactement la même chose, enfin même pas la même chose du tout, mais ça me fait penser à une sorte de mélange entre Metal Gear, la série des Metal Gear, et Pokémon.
C'est vrai, oui.
C'est-à-dire qu'il y a ce même attachement émotionnel de jeunesse que pour Pokémon, et la même complexité de la série à laquelle on comprend rien si on n'a pas suivi que dans Metal Gear.
C'est
complètement
très,
alambiqué. Mais du coup, tu m'as pas expliqué ce que c'était que cette épée, cette Keyblade. Ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'ils tapent les gens avec des clés?
Étant donné que donc le thème un peu principal de la série, au-delà de ce, enfin c'est le cœur. Donc le cœur, encore une fois, il faut le comprendre un peu à la japonaise. Au Japon, quand on parle du mot cœur,
c'est Kokoro.
Kokoro, c'est ça. Oui, c'est très. Si vous regardez un peu d'animé, etc. Enfin. Si vous suivez un peu la pop culture japonaise, on sait que Kokoro, c'est à la fois, encore plus qu'en Europe, je veux dire, c'est le cœur, l'organe, mais c'est aussi l'âme, c'est aussi
l'essence presque.
L'essence, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, rapidement, la série, en fait, brasse des thèmes qui ne sont pas si inintéressants que ça. Il y a un côté enfantin à la base, il y a un côté ensuite, au contraire, comme tu dis, très Metal Gear, solidesque, complètement alambiqué dans le scénario qui perd tout le monde. Mais les thèmes généraux, c'est toujours ces questions de qu'est-ce qui fait... l'essence de l'humain et tout ça, c'est des choses assez classiques et dans lesquelles on se retrouve assez facilement. Donc ça, c'est le thème principal. Et Kingdom Hearts part du principe qu'on peut verrouiller ou déverrouiller des cœurs, qu'on peut aussi que chaque monde a un cœur et que ce cœur peut être verrouillé, déverrouillé. En gros, on reste toujours sur des thèmes de serrures, de portes à ouvrir, etc., etc. Et quoi de mieux pour ouvrir des portes qu'une clé? Et si on peut se battre avec cette clé en même temps, c'est plus pratique. D'où l'invention de
donc,
la keyblade.
De la clépée. Donc ça veut dire que quand on veut ouvrir les cœurs, on prend une clé d'un mètre et demi et on l'assène sur le coin de la gueule des gens. Et c'est comme ça qu'on...
C'est presque
d'accord.
Ça.
Ok.
C'est presque ça. On l'assène pas littéralement sur le coin de la gueule. C'est plus quelque chose qui se fait de manière un peu plus métaphorique quand il s'agit de verrouiller ou de déverrouiller des choses. Mais sinon, cette clé sert aussi à frapper les 100 cœurs dont je parlais tout à l'heure.
D'accord.
Mais je trouve cette idée de design, je la trouve pas mal en fait. L'idée de la Keyblade, je trouve ça pas mal parce que, alors ça paraît sûrement bizarre vu de loin. Comme
ah oui, ça paraît
mais,
très con, je te confirme.
Ça paraît, c'est sûr. Mais je trouve qu'en jeu, il y a quelque chose d'assez naturel dans le design de l'objet. Ça fonctionne, je trouve, cette garde qui est formée par le bas de la clé et la lame. Enfin, ça, je trouve le design plutôt réussi. Mais peut-être que j'ai trop joué à Kingdom Hearts.
Non, mais
peut-être
c'est ça, c'est
suis déjà de l'autre côté.
Les yeux innocents de l'enfance qui sont en train de parler là.
Oui, je pense.
Peut-être. Enfin, moi, on a tous des trucs comme ça, mais du coup, je pense sincèrement que tous ceux qui n'ont pas joué au jeu trouvent ça un petit peu étrange. Mais
oui.
Au niveau, je vais encore te poser juste une ou deux questions et puis on va avancer. Au niveau du gameplay, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, on a dit c'est une sorte d'action RPG. Tu contrôles uniquement Sora, donc le personnage principal, ou est-ce que tu contrôles les différents personnages de ton équipe et ils ont chacun des capacités différentes. Il y a des combattants, des lanceurs de sorts, des tanks, des soigneurs, machin. Ou comment ça se passe au niveau du gameplay ?
Un peu des deux, dans le sens où on contrôle à proprement parler, on a un contrôle entier uniquement sur Sora, plus occasionnellement son ami Riku dont je parlais tout à l'heure, qui peut dans certains épisodes être jouable un petit peu, mais c'est les seuls sur lesquels on a un vrai contrôle total, c'est-à-dire que c'est lui qu'on va diriger vraiment, avec lequel on va frapper, etc. Mais Sora est donc quasiment en permanence accompagné par Donald et Dingo, qui ont des rôles d'alliés d'IA, en fait. On va pouvoir paramétrer un petit peu ce qu'ils vont faire en termes de... Est-ce qu'ils vont nous aider? Est-ce qu'ils vont cibler tel ennemi ou tel autre, etc. Ça, c'est assez classique. Hein, on le voit dans plein d'autres jeux vidéo. Et effectivement, Donald et Dingo ont une spécialité chacun. Donald va lancer certains sorts. Dingo va plutôt être attaquant ou défenseur avec un bouclier. Et à côté de ça, on a aussi plein de personnages Disney et plus occasionnellement Final Fantasy ou en tout cas issus des licences de Square Enix qui vont pouvoir être utilisés sous forme en quelque sorte d'invocation. On les après les avoir rencontrés dans le jeu, après avoir résolu leurs problèmes, etc. On peut, ils peuvent, en gros, ils nous disent appelle-moi quand tu veux et je t'aiderai. Et c'est des petites invocations, on les lance via les menus et ils ont une attaque spéciale qui lance en combat, etc., etc. Ce qui renforce encore plus le côté attraction permanente du jeu parce que on fait intervenir les différents univers comme ça dans les combats et je crois. Encore une fois, j'y ai pas joué, mais il me semble que dans le troisième épisode, c'est encore plus renforcé par le fait qu'on joue, on peut littéralement invoquer des attractions traditionnelles de parcs d'attractions Disney, comme les tasses qui tournent là, les manèges tasses, les roller coasters, etc.
Et du coup, l'intégration, on en a presque. Enfin, on pourrait presque avoir tendance à l'oublier, l'intégration Disney, mais elle est visuellement inoubliable et très présente.
Oui.
Ça fait pas un peu couillon de se balader dans ces différents univers Disney ? C'est un petit peu la question que je me posais. J'ai l'impression que c'est tellement bien intégré que ça fonctionne. Mais bon, tu vas pas me dire que ça fait couillon en même temps, t'es fan du jeu. Mais...
Ouais, non, mais honnêtement...
C'est une idée bizarre, quoi.
Si, je pourrais le dire aussi. Comme je peux dire que moi, par exemple, je suis fan du jeu, mais le scénario, là, je suis pas dans les détails, mais il n'y a pas d'autre mot que couillon pour dire ça. C'est débile. Il y a énormément de côtés débiles dans Cash qui touchent plutôt à la surcomplexification d'un scénario qui pourrait être beaucoup plus simple. Et effectivement, il y a un côté... si on tombe dedans comme ça, je trouve qu'effectivement, il y a un décalage... presque trop marqué dans le fait on nous vend des personnages. D'un côté, il y a des personnages très sombres avec des capuches comme ça, dont on sent qu'ils se prennent très au sérieux, ils sont en costume noir, etc. Et en face d'eux, il y a Donald et Dingo. C'est très étrange. Il y a un décalage comme ça très bizarre. Mmh. Ça peut effectivement paraître couillon. Je trouve que le mot est bien choisi. Seulement, si t'étais dedans à la base, c'est quelque chose qui finit par paraître naturel. Et je pense qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui est devenu de plus en plus bizarre au fur et à mesure que la série se prenait un peu au sérieux en présentant des personnages très sérieux, des enjeux très, très, très importants. C'était moins le cas au début. Je trouve qu'au début, dans les premiers épisodes, il y avait quelque chose qui paraissait beaucoup plus naturel dans tout ça. Là, honnêtement, moi-même, j'ai beau être familier de la série depuis le début, je trouve que ce qu'on voit de Kingdom Hearts 3, là, dans ces trailers, il y a un rendu un petit peu étrange, y compris parce que, comme tu le disais, chaque élément de film Disney différent est tellement bien rendu que ça clash un petit peu quand on les met tous ensemble.
Enfin, en plus, on se balade dans l'univers de Frozen, dans l'univers de Toy Story. Enfin, il y a vraiment tous les grands succès.
Aussi, je crois, dans celui-là. Ouais.
Mais à chaque fois, tous les graphismes changent. En fait, même le personnage principal, il est adapté au style graphique de ces. Il y a quand même quelque chose d'assez réussi dans ces dans ces designs, dans cette approche, dans cette idée loufoque. Mais en même temps, vu de l'extérieur, bon, j'ai envie de me lancer dedans, mais en fait, ça a l'air tellement complexe que je ne sais pas si je vais pouvoir. Sébastien, du coup, je me retourne vers toi. Tu ne connaissais pas trop la série et j'ai l'impression que tu n'es pas très fan de jeux console et de jeux japonais. Est-ce que là, ça t'a donné envie ou tu te dis non, peut-être pas?
Non, je suis fan de jeux japonais. J'aime énormément Platinum Games. Je suis fan de ce studio. Mais après, je pense que en effet, ça me rappelle un petit peu quand un fan décrit Kingdom Hearts, ça me rappelle un peu un fan qui décrit JoJo, la série animée où c'est très très spécial et c'est très. Quand je me souviens hier, il y a un pote qui me dit et du coup, c'est quoi JoJo? Et on se regarde avec mon pote qui est un fan de la série et on fait alors compliqué, mais c'est vachement bien. Donc je reconnais vraiment le même pattern avec Kingdom Hearts. Donc je pense que pour le coup, c'est un peu tard pour moi pour m'y mettre. Et en effet, j'ai jamais été très console parce que j'ai jamais vraiment eu de console. Mais je pense que si j'y avais joué comme beaucoup au tout début, je serais très certainement fan aujourd'hui. Ouais. Quand tu te laisses embarquer tôt dans ce genre de licence, tu deviens un fan absolu assez vite, je pense.
Ouais. C'est ça, oui, c'est ça. Et il y a aussi un côté, honnêtement, j'ai tellement de temps là-dedans que maintenant je veux voir la fin, quoi. Il y a un peu de presque. Même si c'était devenu tout pourri. Et d'ailleurs, j'ai un peu peur, hein. Honnêtement, j'ai très très peur du troisième épisode. Je l'attends énormément, mais j'attends énormément de pouvoir y jouer. Mais je suis intérieurement, intimement convaincu qu'il va pas me convenir parce que c'est presque impossible, quoi. C'est quasiment impossible après.
Ouais, c'est un jeu où il y a trop d'attentes.
Star Wars, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
Et d'ailleurs, quoi qu'il arrive, ça te plaira pas, quoi.
C'est ça. Et les premiers retours,
moi j'aime bien les
nouveaux
Star Wars,
me rassurent pas énormément. Dans les premiers retours de Kingdom Hearts 3.
Ah oui.
Sont pas. Alors, le jeu est plutôt bien reçu hein, dans l'ensemble. Pour l'instant, je crois qu'il a une moyenne. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais il a un 88 sur Metacritic.
J'ai l'impression que les gens n'ont pas beaucoup eu de copies à l'avance.
Peut-être aussi.
Et donc, les gens qui ont déjà noté, ils ont joué. Enfin, c'est possible de jouer tout le week-end. Mais là, on enregistre lundi à midi. C'est-à-dire que les notes ont déjà été mises, on va dire, dimanche soir. Il est sorti samedi, le jeu. Donc, ça me paraît un peu chaud, quoi. Mais
il faudra attendre un petit peu. Je crois que sa date de sortie officielle, normalement, c'est le 29, hein. Donc,
ah oui,
demain, à l'heure où on parle, il me semble. Hein.
C'était disponible
un peu plus tôt, mais en réalité, il est censé sortir demain.
Ah, je m'étais trompé sur la date. Bah, d'accord, oui, effectivement.
Je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je suis quasiment sûr que normalement, c'était le 29 et que, en fait, il se trouve qu'il est disponible un peu partout avant.
Oui.
Et d'ailleurs, il y a eu aussi quelque
raison,
chose, c'est assez tragique pour ce jeu. Enfin, tragique. C'est que je crois que c'était courant décembre. Là, il y a 9 copies en tout et pour tout, je crois. Qui ont fuité, ouais. Et il y a eu un message de donc Tetsuya Nomura, le créateur de la série, un peu désolé de constater ça et qui voulait protéger un peu ses fans du spoil. D'ailleurs, il y a quelque chose d'un peu bizarre où on sait qu'il y aura une fin cachée dans le jeu. C'est quelque chose de traditionnel dans les Kingdom Hearts. C'est très proche du MCU hein, quand j'y pense maintenant. Il y a presque ces post-génériques.
Il y a la séquence post-générique. Ouais.
C'est ça. Et celle-là n'est pas encore intégrée dans le jeu, je crois.
Ah, bah, donc du coup, ça tombe bien éviter les
spoilers. C'est ça, il me semble que Square Enix a dit on la mettra une semaine après la sortie du jeu, quelque chose comme ça, pour être sûr que ça ne fuite pas.
Tout le monde ait l'occasion de
c'est ça.
Bon, très bien. Eh ben, écoute, merci pour ce topo qui aura au moins permis à certains d'entre nous de comprendre un petit peu de quoi il s'agit.
J'aimerais juste dire, oui, ça a l'air très très confus comme ça. Je vous ai entendu dire, oui, c'est comme JoJo. C'est vrai, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus naturel dans Kingdom Hearts que dans quelque chose comme JoJo. Il y a quelque chose de plus naturel fois qu'on y joue, en fait.
C'était extrême comme exemple.
Non, mais c'était pertinent, hein. Ça reste pertinent, parce que je vois le côté extrêmement étrange que ça peut avoir quand on en parle comme ça. Mais le fait d'y jouer, il y a quelque chose qui coule assez bien quand même, je trouve. Et ça vaut le coup, je pense, de au moins regarder ce que ça donne. C'est une série assez importante dans le jeu vidéo, je trouve, pour que ce soit intéressant d'y avoir ne serait-ce que jouer un petit peu, quoi, pour comprendre le feeling que ça
Mais moi,
dégage,
j'aimerais bien, mais tu sais, tous ceux qui ont essayé d'expliquer l'histoire, même quand j'écoutais le Cozy Corner, franchement, au bout de 20 minutes, je ne suivais plus, quoi.
Ah oui,
c'est
bien
impossible,
sûr.
C'est hyper dur. Donc, même en se disant, je vais aller regarder l'histoire de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant pour essayer de prendre le train en marche, c'est hyper dur. Peut-être qu'on n'est pas obligé de suivre chaque petit épisode.
Je pense pas, je pense. Parce que si ça peut te rassurer, je pense que y jouer, si tu y joues, toi, demain à Kingdom Hearts 3 sans avoir fait les autres, tu ne vas pas comprendre grand-chose. Mais l'histoire
mais tu
est
vas t'amuser quand même.
Pour que, et j'espère, ça, je ne peux pas te le garantir encore pour le 3, mais je l'espère. Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est que quelqu'un qui a fait tous les épisodes avant, de toute façon, il l'a pas beaucoup plus compris que toi. Donc, vous êtes à peu près au même stade. C'est un côté rassurant.
Effectivement. Bon, bah, écoute, on ferme cette partie sur une nouvelle positive. bon, je voudrais juste poser la question rapidement avant qu'on écume les dernières news qui restent pour l'épisode. On avait parlé à l'épisode précédent des jeux qu'on attendait pour 2019. On n'a pas trop parlé des consoles. Peut-être qu'on l'a fait, mais j'ai pas l'impression. Donc, on va se relancer. Et je vais vous poser la question. Est-ce que, à votre avis, alors attention, on s'engage, hein, on gardera ça à la fin de l'année. Est-ce qu'à votre avis, les nouvelles consoles de Sony et Microsoft vont être annoncées cette année, voire sortir cette année? Qu'est-ce que vous en pensez et éventuellement pourquoi? Bon, Sébastien, c'est pas trop ton truc les consoles, donc je sais pas si on te pose la question ou si tu passes
non,
ton tour.
Écoute, je ne sais pas. Voilà, ça va être ma réponse. Vraiment, je ne sais pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que on arrive dans, en effet, la fenêtre de
la fenêtre de tir.
La fenêtre de tir où les architectures de consoles actuelles commencent à être un petit peu obsolètes avec les nouvelles technologies, notamment, je pense au tout ce qui est le ray tracing, etc. Donc, en effet, ça pourrait certainement être le bon moment. Mais je ne sais pas, dans ma tête, je verrai plutôt l'année prochaine. Je ne sais pas pourquoi.
Oui, je pense que tu n'es pas le seul. Kevin, une idée, toi, là-dessus?
Oui, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que là, il devient, je pense, assez urgent. Pour moi, je pense qu'il serait assez inquiétant, de ne voir aucune annonce, au moins cette année, de la part de Sony et ou Microsoft. Parce qu'il est temps, là, on parle de fin 2013, je crois, pour la sortie de la PlayStation 4.
Et de la Xbox One, oui.
Et de la Xbox One, oui, c'est vrai, c'était au même moment. Donc, ça fera 6 ans en fin d'année. C'est une durée de vie respectable pour des consoles qui, comme le disait Sébastien, vont commencer à sérieusement accuser le coût de leur âge par rapport au PC et à ce qui arrive maintenant. Donc, je pense qu'une annonce cette année... c'est presque nécessaire. De là à espérer une sortie, ce serait le timing. On penserait à quelque chose comme annonce à l'E3 et sortie en fin d'année. Ce serait, je pense,
c'est un peu
agréable,
ambitieux, peut-être, oui.
Mais ça me paraît un peu ambitieux, c'est ça. Ouais. Alors, d'autant qu'il y a eu donc ces espèces de semi-générations que sont la. Alors semi, faut le dire vite, hein, mais que sont la PS4 Pro et la Xbox One X. Qui je pense était destiné peut-être à la base à faire durer un peu plus cette génération-là, mais j'ai pas l'impression que ça ait bien pris en termes de discours.
Moi, je crois pas qu'en fait, c'est ce qu'on a tous pensé au début, que ça va être l'habitude maintenant, et peut-être que ça le sera, mais à mon avis, c'était surtout pour la 4K. Au final, quand on regarde tout ça, c'était pour que les consoles fonctionnent en 4K, et elles font leur office. Bon, la Xbox One X est encore plus, est très puissante en plus de ça, mais moi, je dirais que mon analyse, dont j'ai parlé parfois dans l'émission, c'est qu'il y a deux situations complètement opposées, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans l'industrie des consoles de jeux vidéo. C'est-à-dire que sur toutes les générations précédentes, on était plus ou moins à égalité, vraiment plus ou moins, hein, ça n'a pas toujours été le cas, mais il y avait toujours deux acteurs qui étaient sur la génération, on va dire, 60, enfin, qui étaient plus ou moins à égalité, parfois il y avait trois acteurs, mais il y en avait deux qui dominaient. Là, c'est la première fois où on a vraiment, sur les deux consoles principales, la Xbox One et la PlayStation 4, alors on met la Switch de côté un instant parce qu'elle vient de sortir et elle aura peut-être une nouvelle version. C'est même, à vrai dire, probable qu'il y ait une nouvelle version,
sûr,
mais
ouais.
ça sera une version à refresh hardware. Elle sera quand même compatible. Il n'y aura pas de différence, je pense, dans les capacités. Mais donc, on a la console de Microsoft, enfin Microsoft qui est très pressée que la génération se termine, et Sony qui aimerait bien qu'elle dure aussi longtemps que possible, parce qu'ils ont un parc installé absolument énorme. Et d'ailleurs, vous dites que il est temps qu'on ait les nouvelles consoles. Moi, je trouve qu'au contraire, on s'attendait, étant donné le matériel de ces consoles, à ce qu'elles prennent de l'âge assez vite par rapport au PC. Moi, je trouve que les jeux qu'on voit encore aujourd'hui continuent à nous émerveiller sur console, et on a des trucs qui sont en train d'arriver, dont on n'a pas de raison de douter qu'ils ont effectivement les graphismes qu'on a vus dans les previews, qui restent tout à fait éblouissant, je trouve, dans les capacités qu'il montre. Donc, je crois que techniquement, oui, il est temps de commencer à penser à préparer l'avenir, mais on n'est pas encore dans l'urgence, mais on est dans l'urgence au niveau des chiffres de vente et au niveau du parc installé pour la Xbox One. Donc, je pense que Sony va attendre. Ils ont encore deux grosses cartouches. Ils ont, en plus des jeux qui sortent cette année, ils vont avoir Ghost of Tsushima et The Last of Us Part 2, qui vont peut-être sortir cette année, peut-être début d'année prochaine. Et donc, je pense qu'ils vont laisser traîner jusqu'à l'année prochaine. Par contre, je pense que Microsoft va annoncer sa nouvelle console. D'ailleurs, ils en ont déjà parlé l'année dernière à l'E3, mais ils vont en parler, donner des précisions, des détails sur la console cette année à l'E3. Et je pense qu'il n'est même pas impossible qu'elle sorte cette année. Je vais même m'engager... Je vais prédire qu'ils vont non seulement l'annoncer avec les détails, mais en plus de ça, qu'ils vont la sortir cette année. Bon, là, je suis un petit peu au bord du précipice, mais vous pouvez m'en reparler à la fin de l'année si elle n'est pas sortie, la nouvelle Xbox, ou on va dire, on fait l'année fiscale, on va jusqu'en mars de l'année prochaine, quoi. On va dire comme ça.
Ouais.
Mais parce qu'ils veulent prendre de vitesse Sony, je pense, avec raison, et il va y avoir une rétrocompatibilité de toute façon. Enfin bref, à mon avis, ça va bouger beaucoup du côté de chez Microsoft. Sony est à l'aise et ils vont attendre l'année prochaine. Et pour Sony, ça sera annonce 2020 et sortie 2020. Sony se verrait bien attendre jusqu'en 2021-2022, mais je pense qu'ils vont être obligés de bouger parce que Microsoft, justement, va tirer les premiers. Donc,
C'est vrai. Ouais. En tout cas, ça me paraît complètement vrai et important ce que tu dis sur la différence fondamentale entre Sony et Microsoft à l'heure actuelle. Oui, parce que la Xbox One, bon, c'est le je sais pas, fiasco, c'est peut-être un mot fort, mais c'est problématique, ça se voit beaucoup, quoi, pour Microsoft. Et effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, mais le fait d'être beaucoup plus dans l'urgence et qui pourrait motiver une sortie cette année, ça paraît plausible.
Bon, on verra à la fin de l'année. Je pense recevoir des tweets et des messages riant de mon audace, mais bon, on verra.
Et peut-être un message de Microsoft qui dit « Mais ça va pas, pourquoi tu révèles tous nos plans comme ça ?» On avait dit qu'on le disait pas. C'est ça.
Bon, maintenant, on va parler des quelques news qui ont fait l'actu de ces deux dernières semaines. D'abord, il y a l'annulation de Star Wars, le jeu Star Wars du studio de Vancouver qui a été annulé. Ouais. Visiblement parce qu'il était trop ambitieux et qu'il n'y avait pas assez de sabres laser.
Ça, c'est l'excuse, hein.
Oui, en fait,
l'excuse projet Titan, on la connaît. Hein. Trop ambitieux.
Ce qu'ils disent, c'est que le jeu aurait pris 4 ans à développer et qu'ils veulent un jeu en 2020. Donc, ils veulent un jeu développé en 2 ans au lieu d'un jeu développé en 4 ans.
Ça annonce un bon triple A, ça, un jeu développé en 2 ans. Ouais. C'est une bonne idée, ça.
je comprends la préoccupation. Je dirais, pour donner l'autre côté de cette news, je dirais que ce genre de truc, c'est des montants tellement stratosphériques et des engagements tellement importants qu'il m'est moi difficile de condamner ce type de décision du confort de ma petite chaise. Parce que quand tu es une société comme EA qui brasse des dizaines, voire des centaines de millions de dollars et que tu peux engager effectivement, 70, 80, 100 millions de dollars sur le développement d'un jeu, t'as intérêt à être sûr qu'il va bien se vendre, quoi. Et t'as intérêt à être sûr. Alors oui, on peut dire, ah, il est trop ambitieux, il y a certainement de ça. Mais c'était un truc avec des chasseurs de têtes qui devaient se balader. Il n'y avait pas assez d'ambiance Star Wars pour eux et de Jedi. Et ils disaient, mais du coup, ça risque de pas plaire. Oui, c'est facile de dire, ah, mais nous, on veut des jeux Star Wars, vous avez la licence exclusive. Et c'est vrai.
Ouais.
Mais il n'empêche, si t'es pas sûr de ton coup, faire un chèque de 100 millions de dollars, je sais pas, c'est, ouais, c'est pas facile, quoi.
Il y a un truc qui est marrant, c'est que j'ai l'impression de revoir la problématique Star Wars Galaxies. Star Wars Galaxies, c'était ce vieux MMO qui était très apprécié des joueurs, qui était un MMO RPG vraiment classico-classique, hein, dans la veine des EverQuest, etc. Ça avait une bonne communauté, et le jeu était génial, enfin, pour les anciens qui y jouaient, évidemment, il a sacrément vieilli maintenant.
Ouais, il faut voir le type de jeu que c'était, hein, c'était un petit peu arrivé.
Voilà, c'est du MMORPG classique, mais en fait, quand le jeu est sorti, il n'y avait pas de Jedi. Il n'y avait que des classes, il y avait des tas de professions, tu pouvais être entertainer, tu pouvais être chasseur de primes, tu pouvais être danseur, enfin, il y avait plein de professions, hyper variées, et en fait, le jeu a coulé à partir du moment où les devs ont ajouté les Jedi. Parce qu'en fait, tout le monde voulait être Jedi.
Ouais.
Et du coup, ça a complètement ruiné l'immersion du monde Star Wars, en fait, parce que tout le monde
Ouais, il y avait des Jedi partout, quoi.
Et en fait, le truc, c'est qu'ils voulaient pas qu'il y ait des Jedi partout. Et au début, ils ont mis un système, en fait, où il fallait farmer des réputes. Et en gros, tu devais trouver... En fait, tu devais loot des holocrons, les fameuses reliques Jedi, là. Tu devais loot ça, et ensuite, les holocrons te lançaient une quête pour devenir Jedi, où il fallait farmer des réputes. Enfin, c'était un enfer pour devenir Jedi. C'était des farms très, très peu agréables. Et en gros, les devs ont eu un vrai problème, c'est-à-dire que les gens voulaient des Jedi parce que c'était Star Wars, mais les intégrer dans un MMO avec plein de joueurs, en fait, c'est pas bon, parce que quand tout le monde devient Jedi, forcément, la classe, elle est OP. Parce que dans le monde de Star Wars, bon, les Jedi, ils jouent clairement dans une autre cour. Et du coup, c'est compliqué d'avoir des jeux comme ça massivement multijoueurs avec, ouais, bah, avec une classe Jedi qui est censée être plus forte que les autres, en fait.
Ah, remarque, en même temps, dans The Old Republic, ça marche. Bon, il y a des Jedi partout, malheureusement.
Voilà,
c'est sûr.
C'est qu'il y a des Jedi partout, quoi. Donc, du coup, t'as vraiment plus l'impression d'être spécial.
Bah, là, c'était un jeu qui était un open world, mais en solo, si j'ai bien compris. Donc, il aurait été possible de créer un Jedi. Bref, ils ont décidé que le jeu n'était pas ce qu'ils voulaient. Les fans sont très déçus. Ils ont la licence exclusive depuis, je ne sais pas combien de temps, 5 ans, 6 ans. Et il y a deux jeux Star Wars qui sont sortis. Donc, évidemment, les fans sont frustrés.
Ouais.
Disons qu'on a quand même, pour cette année, a priori, on l'espère, le jeu développé par c'est Respawn, qui fait Star Wars... Ouais, c'est ça, exactement. Qui fait Fallen Order, Jedi Fallen Order, qui devrait sortir cette année. Donc, on a quand même de l'espoir. Et puis, il y en aurait un autre, donc, développé par un autre studio l'année prochaine. On verra ce que ça donne, mais c'est sûr que... ils sont très, très bons. Ah, oui.
C'est
les anciens d'Infinity Ward.
Ceux qui ont fait Call of Duty ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Donc,
exactement. Ce qu'il était il y a quelques années avec Modern Warfare.
Je parle ce qu'il est aujourd'hui, enfin, ce qui a permis Call of Duty d'exister, quoi.
Exactement.
Et Titanfall était très sympa, hein. C'est terrible d'ailleurs, Titanfall 2, à quel point ça a été un four à cause de sa date de sortie.
C'est marrant, c'est ce que tout le monde dit. À chaque fois qu'on parle de Titanfall, et en particulier de Titanfall 2, dont la campagne solo était super, tout le monde en parle avec des étoiles dans les yeux, et pourtant...
personne n'y joue. Ouais. C'est ça qui est terrible.
Tiens, parlons un petit peu de la Switch. Il y a eu un petit Nintendo Direct qui nous annonce plusieurs choses. Il y a Wargroove qui va arriver le 1er février, un jeu à la Advance Wars qui est très attendu. Il arrive sur Switch, mais aussi sur Xbox One et sur PC. Il y a un jeu de cartes de l'univers de SteamWorld qui s'appelle SteamWorld Quest. C'est un RPG jeu de cartes. Et il y a aussi CrossCode qui arrive sur Switch en 2019, on ne sait pas quand exactement, mais c'est marrant parce que quelques jours avant, dans mon émission anglophone, je disais avec assurance, CrossCode, c'est un petit jeu sympa, hyper particulier, où on joue, genre c'est un jeu solo, mais on joue dans l'univers d'un MMO et ça fait appel justement à tous les poncifs du MMO, c'est hyper bien écrit, etc. Et vous pouvez y aller sur PC, les développeurs ont dit qu'ils ne pouvaient pas le faire sur Switch, c'est un jeu 16 bits qui serait super adapté à la Switch, ils ont dit que c'était compliqué à faire sur Switch, donc pour une fois, vous pouvez acheter un jeu sur PC sans avoir une crainte qu'il sorte sur Switch quelques mois plus tard, donc allez-y, il n'y a pas de problème. évidemment, deux jours plus tard, Nintendo l'annonce qui arrive cette année. Donc, je suis toutes mes plus plates excuses, mais CrossCode, c'est un jeu sympa. Et
la
dernière chose...
la prédiction Microsoft en prend un coup. Hein.
Là, tout... Tu sais, j'aurais peut-être pas dû dire que la console sortait cette année. Je suis assez convaincu qu'ils vont l'annoncer cette année, mais la sortie, c'est peut-être un petit peu moins sûr. J'aurais dû m'arrêter. Au... Mais tu vois, ça c'est une annonce de pleutre si tu me fais une prédiction comme ça. Il faut avoir
vrai,
un peu de courage.
C'est vrai, il faut du panache.
C'est ça. Et ils ont également annoncé, pour le plus grand malheur de tous les fans de Metroid, que Metroid Prime 4 a été repris par Retro Studios. Retro Studios, qui est le développeur originel de Metroid Prime, de la série des Metroid Prime, suite à un pitch, il semblerait, ça c'est des rumeurs, un pitch qu'a fait Retro Studios pour Metroid Prime 4 à Nintendo. Ils l'ont bien aimé. Ils ont constaté que le développeur actuel, ou l'ancien développeur, c'était Bandai Namco, qui développait Metroid Prime 4. Sans doute qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'évolution du projet, donc ils leur ont retiré. Et ils recommencent le projet à zéro. Donc le jeu, on ne va pas le voir avant, je sais pas, 3-4 ans minimum. Il relance le projet à zéro.
Donc, pour le plus grand malheur, mais il y a un côté aussi rassurant dans le fait de se dire si c'est... Avoir le courage financier aussi, hein, mais de dire bah non, on peut faire mieux en reprenant tout à zéro, c'est plutôt rassurant quelque part. Certes, on l'attendra beaucoup plus longtemps, mais on peut espérer que c'est vraiment pour avoir quelque chose de mieux. Et c'est plutôt, moi j'ai trouvé ça assez courageux et assez chouette de la part de Nintendo de l'annoncer comme ça, de manière tout à fait transparente, sans aller chercher des histoires. À dormir debout pour justifier ça. Juste, on n'est pas satisfait de ce qu'on avait jusqu'ici. Il y a mieux, on nous propose mieux, on repart de zéro. Je trouve ça pas mal.
Je suis d'accord. En même temps, j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec d'autres jeux en 4 qui n'ont pas été annoncés, peut-être à la BlizzCon, par exemple, et de me poser la question, vraiment, de me dire, tu vois, c'est... J'ai vraiment l'impression que c'est tellement facile de dire « Ouais, ouais, on travaille dessus et tout le monde est content. » Et puis après, tu vois, il sort 6 ans plus tard.
Ouais.
C'est un peu l'impression que j'ai avec ce Metroid Prime 4. Alors, c'est les aléas du développement. Je ne suis pas du tout en train de jeter la pierre à Nintendo. Au contraire, pour le développement, c'est effectivement, moi, je trouve la bonne démarche de reprendre le projet à zéro si c'est nécessaire. Mais le fait de l'annoncer, là, ils l'ont annoncé en 2017. Ils recommencent à zéro maintenant. Est-ce que c'était pas un petit peu... oui, ça fait plaisir aux gens, mais c'est un petit peu... Enfin, je sais pas, il y a une certaine facilité. J'irais pas jusqu'à dire une hypocrisie, mais une fausseté dans l'annonce. Parce que tu mets un petit écran et puis tout le monde a l'impression que... Je sais pas, il y a une sorte de... Pas du mensonge, mais un petit peu de fausseté. Je sais pas comment le qualifier. Je sais pas si ça...
Ah si, ouais, ça, je suis complètement d'accord. Hein. L'annonce est prématurée et on sent que c'était vraiment... Il y avait un côté, bon, ben, il faut qu'on propose quelque chose. Là, on va mettre juste un screenshot. Même pas un screenshot, on va montrer un logo, quoi. Et en espérant que ça fasse le boulot, ça l'a plus ou moins fait. Et là, malheureusement, ils payent un peu les pots cassés de ça. Square Enix,
mais personne
n'en
veut parce que c'est Nintendo. Personne n'en veut. C'est genre, les Nintendo, ils sont bien, c'est Metroid de toute façon. Alors que finalement, l'annonce de Metroid Prime 4, c'est pas que les gens se sont dit, oh, il est annoncé, donc je vais acheter une Switch. Mais ça contribue dire, bon, bah, il y a Metroid qui arrive, je vais acheter une Switch maintenant parce qu'il y a aussi d'autres jeux, machin. Ça joue peut-être pour 5%, 10%, mais ça joue. Et au final, bah, le jeu, tu vas l'attendre jusqu'en 2022, quoi. Donc,
C'est le cas pour le remake de Final Fantasy. Square Enix a fait une annonce beaucoup trop prématurée, je pense. Ils ont eu le même cas il y a, je crois, plus ou moins un an, où ils étaient avec Cyber Connect 2. Sur le développement de ce jeu, et il y a un an on a appris qu'en fait ils ont tout repris de zéro. Ils ont pareil tout repris, c'est quasiment le même cas, sauf que Square en a un peu moins parlé, ça a été un peu moins
C'est pour ça que ça me paraît évident. Ouais, c'est comme l'annonce de Elder Scrolls 6. Alors on verra, peut-être qu'il va sortir dans 2 ans et que l'annonce à 3 ans d'avance ça, c'est encore acceptable. Mais j'ai pas l'impression, Elder Scrolls 6, pareil, on va pas le voir avant 2022, 2023, 2024, j'en sais rien, mais...
Ouais, c'était du fanservice, là.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et même si je comprends, je sais pas, moi, j'ai ça me fait moins plaisir, mais j'ai plus de respect pour une société qui va dire, bah, on va attendre d'être sûr qu'au moins on pourra le sortir dans les deux ans plutôt que de vendre des paillettes, quoi. Et un jeu qui ne sera de toute façon pas du tout ce qu'on y pense, ce qu'on pense aujourd'hui. Enfin, je sais pas. Bref, peut-être que c'est mon biais.
Je pense le mieux, c'est vraiment la boîte qui t'annonce le jeu. Voilà, c'est notre nouveau jeu et il est jouable maintenant. Ça, c'est vraiment le... Je crois qu'il y avait eu une boîte. Il y a une boîte qui a fait ça, non?
Mais c'était Bethesda qui Bethesda fait ça pour genre dans quelques mois. Mais il y en a de temps en temps. Ouais, ça arrive. Il est jouable maintenant. Je trouve que tout de suite, c'est un petit peu trop tôt. Il y a quand même un certain plaisir dans la hype. C'était pas, pardon ?
Je crois que c'était Unravel 2.
Unravel 2, t'as raison, de EA, ouais. T'as raison.
Ça, c'est sympa au final, tu vois. Parce qu'il n'y a pas
les plus petits jeux.
De hype. Il n'y a pas d'overhype, du coup.
Ouais, mais pour les plus petits jeux, c'est faisable. C'est des trucs où tu dis, ah bah j'en entends parler, je vais pas me hyper dessus pendant 6 mois de toute façon. Mais moi, j'aime bien la période quand même de hype, si ça dure 3 mois, 6 mois. Voire même un an, on va dire. Même des jeux comme The Last of Us 2, ça fait trop longtemps, quoi. Ça fait, on a vu 4 vidéos, c'est trop long. Bon, c'est un jeu que tout le monde attend, donc ok, on en voit quand même des images, c'est pas qu'on voit rien. Mais il n'empêche, ça fait trop longtemps. Moi, je pense qu'un an max, c'est bien. Et j'ai beaucoup de respect pour les sociétés qui font ça, mais bon, je sais pas, bref.
Non, je suis assez d'accord, ouais. Mais on sent qu'il y a aussi une espèce de pression ressentie par certains éditeurs, etc. On voit les réactions qui peuvent me paraître, moi, parfois disproportionnées, hein, de la part du public face à des annonces ou des absences d'annonces, justement. Sent qu'il y a des... légende.
Les gens sur Twitter raisonnaient,
c'est ça. Mais disons qu'on sent, je trouve que... en fait, c'est ce que tu disais, je vais juste répéter ce que tu disais, c'est que je comprends tout à fait qu'il le fasse tout en le déplorant. C'est quelque chose qui est très, très compréhensible, je trouve.
Bah, disons que c'est complètement une stratégie marketing et il me paraît, encore une fois, amusant de constater que certaines personnes qui sont généralement très anti-gros développeurs, anti-AAA, anti-industrie, se mettent à réclamer une sorte de stratégie marketing artificielle dans certains cas. C'est vraiment ça qu'on voit. Et les mêmes personnes vont ensuite se plaindre de EA, Activision, Ubisoft, les gros éditeurs, quand ils font des trucs entre guillemets, « Ah, c'est que pour faire du fric, c'est que pour faire du marketing. » Une annonce comme ça, ça bénéficie à l'image de marque de la société, ça aide pour la cote en bourse, ça fait vendre, dans le cas de Nintendo, des consoles, ou en tout cas, ça contribue à de la vente de consoles. C'est complètement de la poudre aux yeux. Donc, bon, bref, voilà, vous avez compris ce qu'on dit. Écoute, Sébastien, tu nous disais tout à l'heure que l'e-sport et le PVP est un truc qui te plaît. Je pense que tu es évidemment émerveillé par cette nouvelle annonce à propos de Farming Simulator qui va avoir une ligue d'e-sport pour Farming Simulator. On plaisante, mais Farming Simulator, c'est quand même, ils en ont vendu combien en un an de la version 2019, genre 1 million en un mois, un truc comme ça. C'est un gros
moi,
truc.
J'aimerais bien, qui sont les personnes qui achètent ces jeux à chaque fois? J'aimerais bien...
Des Allemands, c'est les Allemands.
Envoyé spécial, les clients de Farming Simulator. Qui sont-ils? Quelles sont leurs revendications? Genre vraiment, c'est un monde à part. Hein. C'est vraiment une communauté à part. C'est une autre culture. Hein.
Complètement, mais c'est marrant et c'est pas con en fait de la part de Giants, c'est le studio. Ils mettent 250 000 euros dans la cagnotte, ce qui est pas énorme pour un truc d'e-sport. Et ensuite, ça va être des activités du jeu en lui-même. Enfin, Farming Simulator, c'est un simulateur de ferme. Hein, donc,
moi, j'adorerais vraiment voir la finale de cette compétition Farming Simulator avec les mêmes moyens de production que Wargaming avec leur finale de World of Tanks avec t'as un ballet qui danse et tout, t'as les gens après qui arrivent sur scène, le truc est beaucoup trop stylé et juste beaucoup trop grand pour Farming Simulator. Ça me fait beaucoup trop marrer.
Je pense qu'il y a un truc, hein. C'était 1 million en 10 jours pour Farming Simulator 2019. Il y a un truc parce que c'est tellement drôle que je pense qu'il y a des gens qui vont regarder. Mais bon, bref, voilà.
Par curiosité, moi je vais regarder.
Ouais. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit presque un peu le plan aussi, quoi. Il y a quelque chose de tellement un peu loufoque dans cette annonce-là. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir ce côté. On espère bien que les gens vont regarder par curiosité.
Et je vois même pas.
Voilà.
Je vois même pas comment ils se challengent sur Farming. Genre, comment tu...
Je pense que c'est des histoires de course, en fait. Tu dois construire, construire une ferme. Non, mais c'est ça. Non, mais pas de course de tracteur. Mais non, mais genre, tu dois créer une ferme qui a un rendement de 1 million d'euros le plus vite possible. Tu vois, j'en sais rien, ce genre de truc. J'ai jamais joué
mais
à Farming.
Ce qui peut peut-être donner des trucs très, très sympas. Enfin, alors, à regarder.
Pourquoi
juste pas
ouais.
Mais je veux dire, ça peut être... Je n'écarte pas du tout l'hypothèse que ça puisse être sympa à regarder, hein, ce genre de choses. Mmh.
Mais et bon, là, je connais pas, on a, avec un bon casteur, Déguin est en train de labourer son...
Ouais, c'est ça.
Labourer ouais, son prêt avec une route incroyable.
Tu mets un commentateur coréen là-dessus qui c'est devient ça. Complètement fou à n'importe quelle action. non, je pense que ça peut être marrant, mais je suis sceptique.
Sur la valeur. Ah, ouais. Bon, mais c'est parce que nous, on joue pas à Farming Simulator, hein, je pense.
Bah, c'est ça, oui. Ouais.
Ouais. On est des haters.
Ouais, c'est ça, exactement.
Ouais. non, mais ouais, par curiosité, je regarderai, en tout cas.
Bon, tu nous feras un rapport.
Voilà.
Rapidement, parce que je vais vous libérer, Fortnite Save the World, donc la version d'origine de Fortnite en PVE, a supprimé ses lootbox. Ils ont un système intelligent où les lootbox sont rafraîchis tous les jours et on voit le contenu de la lootbox, qui en fait n'est plus vraiment le principe de la lootbox, on voit le contenu avant de payer. Et soit on veut acheter et puis du coup il y en a une autre qui arrive à sa place et on voit son contenu, soit on attend le jour suivant pour avoir un contenu qui est rafraîchi, qui est différent. Donc bon, ça reste des trucs où on peut en acheter plusieurs en espérant avoir des trucs bien au-delà de la première lootbox dont on voit le contenu, mais on voit quand même le contenu de la première, donc on a un petit peu plus de visibilité. Il semblerait que Capcom ait vendu de la licence d'une série télé Resident Evil à Netflix. Netflix a fait plein de séries télé de jeux vidéo, enfin plein, plusieurs séries télé de jeux vidéo, notamment Castlevania qui est très bien reçu.
Ah oui, c'est alors, bien Castlevania.
Là, je sais pas si ça serait une série live ou une série animée pour Resident Evil.
C'est live, je crois, il me semble.
C'est live.
Enfin, j'ai lu que c'était Constantine Film qui faisait ça.
Ah oui, du coup, live, effectivement. D'accord.
Du coup, c'est eux qui faisaient les films Resident Evil. Et c'est eux qui ont fait aussi Le Parfum récemment, je crois, sur Netflix aussi.
D'accord.
Donc, et ils font que du live. Donc, a priori, ce serait plutôt live. Ouais.
Ouais. Pourquoi pas ? Le truc, c'est que il y a des séries qui ont été tellement réussies avec des prémices tellement débiles. J'aimerais bien, par contre, évidemment, voir une série plus proche du jeu que ne le sont les films, qui sont très fun d'une manière très série B. Mais j'aimerais bien voir ce
trop,
que publie.
Peut-être.
Un petit peu trop. Ouais. Ah, moi, c'est toujours un bon moment un film Resident Evil parce qu'il y a Mila Jovovich qui tue des zombies de manière stylée, tu vois. Mais oui, c'est pas très proche du jeu, quoi.
Enfin, ah, Lilou Dallas Multipass me manque quand même.
Il y a quoi, pardon?
Je préfère Lilou Dallas Multipass que Resident Evil avec Mila Jovovich.
Il y aurait un nouvel iPod.
Le timing, en tout cas, est tout trouvé pour commencer à parler de ça.
Ouais,
le fait qu'on commence à y avoir des rumeurs maintenant, c'est pas anodin, je pense.
Oui,
c'est très, très bien trouvé comme timing.
Qui fait partie de l'arsenal de communication de certaines sociétés. Tu peux me niquer ça, un journaliste?
Oui.
Ok, très bien. Il y aurait un iPod Touch qui serait en cours de développement ou même près d'une annonce. Un iPod Touch qui serait focalisé sur le gaming. On parle de mobile de temps en temps. C'est une orientation intéressante pour l'iPod Touch qui n'a pas eu de nouveau modèle depuis genre 4 ans. Et ça serait une orientation intéressante de le vendre comme machine de jeu puisque évidemment les jeux sur mobile sont l'une des activités principales et l'une des ventes principales de l'App Store. Peut-être que c'est un truc qui pourrait être intéressant pour certains... plus jeune d'entre nous. Je pense à mon fils qui est un tout petit peu trop jeune peut-être. Il vient d'avoir un an il y a deux jours, mais
oui.
À un moment.
Un tout petit peu, oui, peut-être un peu trop jeune. Mais c'est curieux de vouloir faire ça. Et parce qu'au final, du coup, tu auras deux supports. Tu auras ton téléphone plus un iPod Touch pour jouer.
Non, je pense que c'est les iPod Touch qui sont justement à donner aux gens qui n'ont pas de téléphone. Ou peut-être.
Mais ça devient de plus en plus rare des gens sans
c'est
téléphone.
Niche, hein. C'est très.
Non, mais les jeunes,
marché,
c'est pour ça que je pense aux jeunes. Si
t'as
un enfant de.
Plus jeune pour le coup.
Mais oui,
ouais.
Si t'as un enfant de, je sais pas, 7, 8, 9 ans. Bon, c'est ou c'est alors, vrai. Quelqu'un qui a un Android et qui veut une plateforme de
un
jeu
accès à l'App
un petit
Store,
peu
ouais.
plus stable. Non, oui, un accès à l'App Store, c'est ce que je voulais dire. Quoi d'autre? Microsoft 365 va arriver pour le grand public. Pour ceux qui ne savent pas, Microsoft 365, c'est genre Windows et Office dans un abonnement. Et pour le grand public, on ne sait pas exactement ce que ça contient. Mais là, forcément, on pense au Game Pass. Et je me dis peut-être que tout ça serait inclus. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le PlayStation Now arrive dans de nouveaux pays européens. Bon, ça marche toujours comme le PlayStation Now, mais si vous aimez le streaming de jeux, eh ben, vous pourrez peut-être... Moi, je me suis inscrit à la bêta pour pouvoir tester en Europe le PlayStation Now. Je crois que je l'avais testé, mais aux US, il y a un moment. Ça fonctionnait gentiment. Et je crois que bon, ça va être à peu près toutes les news. On a le changement de Pillars of Eternity en jeu tour par tour et plus temps réel. Je me suis dit, si jamais on a un fan de Pillars of Eternity, ça va les faire sauter soit de joie, soit de malheur. Je pense de joie.
Mais il me semble que c'est différent. Juste une possibilité. Hein,
tout, à fait,
changement.
Tout à fait.
C'est ça, hein, oui. On bascule pas forcément en tour par tour.
Ah bah non, ça serait dénaturer le jeu, t'as raison.
Là, ce serait terrible. Oui, d'accord, ok.
Bon, il y a plein d'autres petites news, mais je crois qu'on va s'arrêter là. On a quand même fait un épisode bien dodu et j'aimerais remercier très chaleureusement les deux co-animateurs de s'être joints à moi avant de se séparer quand même un petit moment pour nous dire où on peut vous retrouver. Alors... Évidemment, Sébastien est en train de streamer du Farming Simulator sur Twitch très régulièrement.
Reconversion carrière e-sport sur Farming Simulator, évidemment. J'ai été conquis. Moi, évidemment, ouais, sur Twitch, sur YouTube, AlphaCast, voilà, tout simplement.
Très bien, donc le leader de la meute. C'est comme ça qu'on le dit.
Mais c'est pas du tout pour ça, en plus, non, que j'ai pris ce pseudo.
Écoute,
j'aime pas cet aspect, mal alpha, j'aime pas ça.
Tu es notre leader suprême, non? Comment on peut... Non, là, ça devient une autre association.
Oui, encore un autre film, ça. Trompe de licence, ça.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Je mettrai le lien vers ton Twitter dans les notes de l'émission. Donc, c'est AlphaCastFR. Et... Kevin, quant à toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet?
Alors, principalement sur le podcast Cozy Corner dont tu parlais tout à l'heure, Cozy avec un S. Et,
oui, j'ai mis un moment à trouver, moi, justement, parce que je me suis dit, mais Cozy, ça s'écrit avec Z, non?
Avec un S, c'est l'écriture britannique.
Ah, britannique, mais d'accord,
très bien. Et française aussi, par la même occasion, d'ailleurs, il me semble. Mais et ce qui tombe plutôt bien, parce que il se trouve que Cozy avec un Z, Cozy Corner avec un Z, c'est une chaîne de pâtisserie au Japon. Donc on aurait pu avoir de gros problèmes. Donc on s'en sort bien comme ça. Donc effectivement, que podcast Cozy Corner qui est disponible un peu sur, comme tous les podcasts, un peu partout. Il se trouve que avec mon collègue sur le Cozy Corner, Mehdi Campras, on stream aussi très régulièrement toute la semaine sur notre chaîne Twitch qui s'appelle Alice Blaze. Blaze, B-L-A-Z-E, c'est un jeu de mots un peu nul, mais qu'on aime bien.
D'immense qualité de haute volée.
Voilà. Ah bah, ça me rassure d'entendre ça. Merci.
Bon, merci à tous les deux. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr et dans toutes les bonnes crèmeries de podcast. Si vous appréciez cette émission, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, peut-être même de voler les téléphones de vos amis et de vous abonner à cette émission à leur insu, de manière à ce qu'ils soient agréablement surpris la prochaine fois qu'ils lancent leur app de podcast, mais en tout cas leur dire « Ah bah t'aimes bien les jeux vidéo? Tu connais pas le rendez-vous jeu? Mais écoute tout de suite, c'est super bien !» Donc ce genre de truc, ou alors vous pouvez adapter ça à votre sauce. Ouais, exactement. Les gens qui n'ont pas écouté le rendez-vous jeu à 30 ans, ils ont un peu raté leur vie quand même.
Un petit peu.
Et vous pouvez aussi venir commenter sur frenchspin.fr si on a dit des choses intéressantes, si vous avez des questions, si on a dit des choses un petit peu stupides aussi, ça nous arrive parfois, surtout moi. Donc vous pouvez venir nous le dire avec gentillesse, évidemment, sur frenchspin.fr. Merci à vous tous et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.